7h, 9h, plus près de toi.
On va.
Ça commence. Ça y est, le grand cirque s'est installé avec ses animaux rares, ses plantes que vous n'avez jamais vues ailleurs, carnivores, omnivores, tout en vore. Tiens, ça commence. Le grand cirque s'est installé sur la place en vert, en rouge, en bleu. Des enfants de tous les âges sont rassemblés. Une envie de s'évader, une envie de grand cirque. Tiens, ça commence. La foire, les petits événements de la journée. Le grand cirque des rires et des larmes. Le théâtre humain. Devant vous ce soir, ce matin, aujourd'hui. Les drames, les réconciliations. Les rires, les peurs. Les portes qui claquent. Les mains qui claquent sur les visages. Les joues humides, ça commence. Les sourires, ça commence. Les rendez-vous, loupés, réussis, ça commence. Les enfants à l'école. Et quand il n'y en a pas, il y a quand même l'école. Et quand il n'y a pas d'école, il y a quand même des enfants. Et quand il n'y a pas d'enfants, il y a quand même des parents. Quand il n'y a pas de parents, il y en a eu. Il y en a eu, ça commence. Ça commence, ça recommence. Une autre journée, parmi les autres, sur la planète Terre. Tiens, ça commence. Ça commence l'émission plus près de toi, avec ses intervenants, dont... comment tu vas ?
Bonjour.
Qu'est-ce que tu deviens ? T'es toujours dans la région ?
Oui, c'est ouais, Jean-Paul.
C'est Thierry Paré, c'est le journal.
Tandek.
Changement de ton aux États-Unis. Donald Trump déclare que l'attaque chimique présumée qui a fait 86 morts, dont une trentaine d'enfants en Syrie, ne peut rester impunie et que son attitude vis-à-vis de Bachar al-Assad a changé. Le président américain s'exprimait en conférence de presse avec le roi Abdallah II de Jordanie. Le conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence hier pour examiner un projet de résolution après cette attaque chimique présumée. Un projet auquel Moscou refuse pour l'instant de donner son feu vert parce que selon la Russie, il ne s'agirait pas d'un acte délibéré du régime mais d'une frappe malencontreuse sur un entrepôt de substances toxiques tenues par des rebelles. Substance qui se serait alors propagée dans les environs. Une explication réfutée par les insurgés qui affirment que les produits chimiques se trouvaient dans les obus de ce raid aérien du régime syrien. Un sondage Elabe place Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête du premier tour de la présidentielle avec 23,5% des voix. François Fillon serait troisième, 19%. Le candidat de la droite serait, entre guillemets, talonné par Jean-Luc Mélenchon, crédité de 17% des suffrages, des intentions de vote. Benoît Hamon serait à 9%. Nicolas Dupont-Aignan serait lui à 4,5% et Philippe Poutou à 1,5%. Les autres candidats sont en dessous, bien sûr. France 2 ne renonce pas à une initiative présidentielle dès le 20 avril, trois jours avant le premier tour, mais celle-ci ne prendra pas la forme d'un débat à 11 comme c'était initialement prévu. La chaîne renonce à ce projet-là. La chaîne envisage à présent une autre formule, des entretiens séparés, des entretiens individuels. Plusieurs candidats, Jean-Luc Mélenchon en tête, avaient marqué leur hostilité à un débat si près du premier tour. Benoît Hamon, en revanche, regrette l'abandon, lui, de ce débat. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, met en garde les administrateurs d'EDF qui vont se réunir tout à l'heure vers 14h. Elle entend obtenir leur vote en faveur de la fermeture de la centrale, ce qui est loin d'être gagné. Rappelons que c'est une promesse de François Hollande durant la campagne de 2012. Les administrateurs indépendants du groupe public ont la décision entre leurs mains. Les Guyanais qui occupaient depuis mardi le centre spatial de Kourou ont quitté les lieux hier après s'être félicités de leur démonstration de force. François Hollande, de son côté, a lancé un appel au dialogue et à la responsabilité. Là aussi, c'est pas gagné puisqu'il y a justement plus de dialogue entre les Guyanais et le gouvernement. Chacun se renvoyant la balle sur le niveau de l'aide d'urgence à apporter au territoire français. Hier, le gouvernement a entériné en Conseil des ministres le plan d'urgence pour la Guyane, un plan d'un peu plus d'un milliard d'euros, et les Guyanais, eux, le refusent, ils réclament le triple. Puisqu'on parle de mouvement de grève, sachez que les hôtesses et stewards de la compagnie Hope, filiale d'Air France, sont appelés à cesser le travail demain et samedi pour réclamer des garanties sur leur emploi au sein du groupe. Une expédition au départ de Monaco va effectuer un tour du monde de 3 ans le long des tropiques afin de mesurer les dommages infligés à l'écosystème marin. Cette expédition, elle quittera le port de Monaco au mois d'août prochain. Le classement annuel des 50 meilleurs restos de la planète a été dévoilé hier en Australie. En tête du podium, on trouve Eleven Madison Park. C'est un restaurant new-yorkais dirigé par le chef suisse Daniel Hume. Il devance celui qui était en tête l'an dernier, le restaurant italien Osteria Francescana à Modène. Le premier resto français, les quatrièmes, il s'agit de l'établissement Mirazur de Menton. Il y a 6 restaurants français dans ce classement. Il y en avait 3 dans le classement précédent. Et puis, ça passe pour Angers et le PSG qui ont rejoint hier soir Monaco et Guingamp en demi-finale de la compétition. Quelle compétition ? On parle de la Coupe de France, voilà. Angers s'est imposé 2-1 à domicile face à Bordeaux, tandis que le PSG est allé s'imposer 4-0 sur le terrain d'Avranches. Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France a eu lieu dès la fin de ces deux rencontres. Le PSG recevra Monaco et Angers recevra Guingamp. Les matchs se dérouleront dans 3 semaines.
Quand on a commencé cette émission il y a quelques mois, je m'étais dit qu'il fallait parler d'autre chose, parfois que ce qu'on appelle l'actualité brûlante, qu'on n'était pas obligé que tout ça nous arrive à nous, qu'à chaque fois on se lève, comme sur France Info, qu'on a déjà 15 attentats dans la gueule, 30 incendies, des morts. Et tout à coup, là, je vois la une de Libé sur les enfants d'Assad, sur les enfants gazés, tout ça.
Là, j'avoue que c'est une des choses les plus abominables que j'ai vues là de cette année. Alors, il y a l'image et la réalité. Donc, les deux sont abominables, mais c'est rare quand l'image dresse une réalité aussi insoutenable. Donc, on va essayer quand même de faire l'émission comme on l'a décrété, mais il nous faut un petit sas, là. Qu'est-ce qu'on a, on a quoi comme musique, Armel, pour respirer un peu?
Alors, on a un morceau qui s'appelle Benin Redux, c'est de Starfucker. Donc,
bien, j'espère que ça fera l'affaire, cher ami. À tout de suite.
Avec un peu de pub avant.
7h, 9h, plus près de toi. 7h, 9h, Edouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
Vous avez, il s'arrête très net ce morceau. Hein. Je ne sais pas si ce qu'il veut manifester, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, mais c'est dit. Coupé cut comme du saucisson.
Oui, j'ai trouvé.
Vous êtes très éveillé. Non seulement par rapport au matin, mais vous êtes éveillé au sens de spiritualité.
Merci.
Qu'est-ce qu'on a trouvé d'un peu léger dans la presse ce matin, d'un peu détendu, d'un peu pente douce, hein? Des infos en pente douce. Pente douce.
Moi, je veux un petit générique. Moi, j'aime bien le générique.
Le générique des Conway Sœurs.
Oui, parce que ça
m'éveille. Ils nous emmerdent. Mais non, mais j'ai l'impression que ça devient officiel.
Mais ça lui fait du droit d'auteur.
Ils sont là. Ce sont les Conway Sœurs de la presse du matin. Ce sont de fins lecteurs d'informations, de petites quoi. Je ne peux pas être réveillé à chaque minute de l'émission, Thomas Baumgartner.
Vous voulez une alerte? Vous voulez une alerte?
Une alerte. Et pourquoi vous avez une page Gibraltar, vous?
Alors, j'ai une devinette. Qu'est-ce qui fait 7 km carrés et où habitent 32 000 habitants? Et vous avez donné la réponse.
Oui, c'est ça, la réponse.
Le rocher de Gibraltar.
Gibraltar, exactement.
Ah, mais ils sont en train de gueuler, là, l'Espagne.
Gibraltar, les habitants ont voté à 96% contre le Brexit. Parce que Gibraltar.
Ils sont anglais.
Est anglais.
Il y a beaucoup de James Bond qui sont en ouverture à Gibraltar.
Oui, et Gibraltar et Cadix, c'est pas loin.
Il y a beaucoup de James Bond qui habitent à Gibraltar.
Voilà, c'est ça. Ils sont anglais. Donc.
Voilà, c'est ça. Et donc, il y a une sorte de casus belli entre l'Espagne et la Grande-Bretagne sur la question de Gibraltar, parce que Bruxelles a dit que l'Espagne devrait donner son feu vert sur le cas de Gibraltar au moment du Brexit, parce que le dispositif du Brexit a commencé il y a quelques jours, la fin mars. Donc ça a commencé, le compte à rebours, ça va durer 2 ans. Et donc là, le cas de Gibraltar est particulier, il va falloir qu'ils se mettent d'accord. Et il y a un ancien leader du Parti conservateur, Michael Howard, qui a comparé la situation de Gibraltar aujourd'hui à celle des Malouines. Donc c'était la guerre quand même.
Oui, la Malouines. Guerre de Thatcher contre les Argentins.
Voilà,
oui.
Et donc, vous savez pourquoi la guerre avait eu lieu? Pour des petites crevettes, les gens ne savaient pas, pour des petites crevettes qui étaient un mets très très rare.
Et ben moi je préférais à l'époque où je ne le savais pas.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire juste avant votre intervention, j'étais plus heureux.
Ouais. Voilà, Thomas, mais c'est vrai que ça peut commencer par des petites choses. Le Brexit, c'est une grosse question. Et effectivement, ils ont voté à 96% contre le Brexit. Donc voilà, il y a quelque chose, une grosse tension qui commence à naître. Bon, ça s'est un peu calmé après les paroles de Michael Howard. Et il y a un chercheur espagnol dans La Croix qui rappelle que Gibraltar est essentiel pour l'OTAN, en particulier pour les États-Unis, sur des questions de renseignement, de navigation stratégique. Et donc, grosso modo, à un moment donné, tout le monde aura intérêt à ce que ça se règle pacifiquement. Et donc, il y a Ahmed Khalif qui est en train de pleurer derrière.
Il n'y a pas un contentieux, c'est entre l'Espagne et le Maroc, c'est sur quoi? C'est pas sur Gibraltar.
Ah, c'est un autre passage, effectivement, un territoire marocain qui appartient à l'Espagne.
Il y a beaucoup de singes à Gibraltar.
Il y a les singes de Gibraltar. Mais on parlait de James Bond, on disait qu'il y a beaucoup de James Bond. Vous qui le connaissez dans la vie, James Bond, comment il est?
Il est pas.
On l'a vu tous les jours. Le mec est sympa.
Le mec est sympa. Il est un peu dur avec les femmes.
Mais il est pas comme à la télé. Vous me disiez, c'est un mec qui pèse son cou. Il est là. Salut, c'est pas quelqu'un. Vous m'aviez dit. C'est pas le mec qui.
Oui, bonjour, c'est James Bond. Attention, j'ai pas réservé.
Non, le mec est sympa. Je crois.
Le mec est sympa.
Le mec, c'est salut, c'est James Bond. Il y a pas de table, Voilà. Parce que souvent au restaurant.
Mais il est sympa.
Parce que autant il y a ça, autant on m'a dit par exemple que Mickey n'est pas sympa.
Ah non.
Mickey dit oui, c'est Mickey. Bon, alors que Mickey, je peux vous dire, s'il arrive dans un restaurant à la mode et qu'il n'y a pas de table, on l'entendra. Il y aura des grands coups d'oreille dans la gueule. Tandis que James Bond, je crois que le mec, ouais, salut, allez, à moi, cul sec.
C'est ça. Et ben, c'est exactement ça. C'est plus ça que vous dites.
Oui.
D'ailleurs, sur James Bond, j'ai une info.
C'est qui a fait ce son? Qu'est-ce que vous avez fait, Tito ?
C'est Mickey !
Ah non, c'est pas... Non, non, c'est pas... Vous ne l'avez pas vu depuis longtemps. Ça, c'est Mickey jeune fille, ça.
J'ai une vraie info sur James Bond. Daniel Craig a dit qu'il ne le ferait plus, qu'il ne le ferait plus.
Ça fait plusieurs années qu'il dit ça.
Oui, et Barbara Broccoli, la productrice, la fille de Herbie Broccoli, le célèbre, a mis la main au chéquier pour qu'il le fasse. Il lui donne 150 millions de dollars pour faire le prochain.
Moi, par contre, parce que je suis dans des métiers où j'ai beaucoup d'argent, c'est beaucoup ou pas ?
C'est énorme. C'est le prix d'un James Bond.
Franchement, je ne sais pas.
C'est le prix du film.
Peut-être que je suis coupé de la réalité des gens en pain au chocolat, je ne sais pas comment ça fait.
C'est le prix d'un film.
Non, mais arrêtez, on était en train de rêver. Ne dites pas qu'il y a des acteurs qui interprètent James Bond. Dans ces cas-là, dire que le Père Noël est interprété par un acteur.
Quoi
non, on non, pourrait dire. Attention. Et que la petite souris, parce que je vois que vous perdez votre dent, ne va pas passer. Hein, parce que la petite Imane, elle y croit. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez d'autre là?
Moi, j'ai une espèce de zapping de
Alors déjà, qui veut écouter le zapping d'Akmen?
Oui, moi.
Charlène. Alors, attendez, Charlène, c'est bien de dire moi, mais faites-le maintenant avec le cœur. Avec l'interprétation, vous voyez, il y a un texte et il y a une interprétation. Parce que si vous dites qui veut quelqu'un qui dit « moi », non, c'est « moi », est-ce que je dis ?
Je veux écouter le zapping d'Atman. Ouais,
j'ai trouvé une nouvelle formule, deux petites infos minables pour annoncer une très grande. Alors donc, Émilie Ratajkowski, ce mannequin, mange du kouign-amann, donc ça intéresse peut-être...
Le gâteau breton, le kouign-amann, voilà, tout en beurre.
C'est grâce à ça qu'elle maigrit, elle ne mange que ça.
Mais elle garde sa poitrine, j'ai vu des photos d'elle.
Ah,
c'est-à-dire
que
c'est cette mode actuelle, là, tout fond, et puis tout à coup, il reste une poitrine seule sur la Terre.
Oui.
Donc, quoi
d'autre? Vous êtes un peu plus réactif que sur Gibraltar sur la question,
Émilie, oui. Moi, on me l'a interdit de regarder des photos d'Émilie Ratajkowski. Ma femme a mis une alerte sur l'ordinateur.
Une alerte Ratajkowski, voilà. Oui. Et donc, alors, j'adore parce que c'est cette nouvelle mode de Dana sur Instagram qui me pose des photos d'elle, que à poil, en disant mais ça va, arrêtez de me regarder.
Arrête, je suis comme tout le monde.
Oui, oh là là, voilà. C'est, voilà, c'est du féminisme. Voilà. Ce que je fais. Alors, quoi d'autre?
Doris Day a 95 ans.
Pourquoi jouait-elle Doris Day?
Elle jouait dans plein de films, elle chantait « Que sera, sera », vous rappelez cette chanson?
Oui, mais avec l'air.
« Que sera, sera, nanana ».
Elle le chantait mieux que ça
c'est
ou pas?
C'est l'homme qui en savait trop.
Hein, elle le chantait mieux que ça?
Elle en chantait 10 fois Doris Day. Non mais elle a fêté ses 93 ans et son mari lui a dit, hein, qui est plus vieux, « Non, tu en as 95 ».
D'accord, là on est encore dans les infos minables ou on est dans la bonne?
Et non, surtout il y a la foire au fromage à Coulommiers. Ça c'est à Coulommiers, qui essaie de se battre pour mettre en avant son brie, qui est battu par le brie de Meaux. Alors ils expliquent, ils vont faire des énormes stands avec des super slogans qui arrivent, dont celui-là qui m'a beaucoup fait rire, Fête du Brie. Et celui-là, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Donc à la foire au fromage de Coulommiers qui va démarrer, on explique comment faire donc du Coulommiers, on donne les références, parce qu'ils essayent d'avoir l'appellation
un peu AOP. Comme, oui, c'est ça, comme au Jamel Comedy Club. Allez, Fête du Brie, tous les membres sur un fromage. Oui, oui. Moi, je ça, on est encore dans les minables, là.
Non, c'était...
Ah, pardon. Ah oui, d'accord. Ah,
bon, vous voyez,
oui.
Je pensais terminer...
C'était la brillante.
C'était alors. La brillante, voilà.
Thomas, vous avez flippé.
Non, parce qu'il y a j'ai comprendre le jeu. Faites du bruit.
Faites du bruit.
Mais alors, ce qui est formidable, c'est que souvent, quand il y a un jeu de mots, les gens ne rient pas. Les gens disent, vous ne riez pas parce que vous n'avez pas compris. Si, on a compris et on continue à ne pas rire.
Oui,
non, mais c'est pas grave du tout.
Mais c'est
arrivé à des gens formidables. Quoi. Qu'est-ce qui se passe d'autre, Charlène?
Vous vouliez de la légèreté, Edouard. Est-ce que les nuages, c'est assez léger pour vous?
Oui, il ne faut pas s'asseoir sur un nuage parce qu'on se retrouve très vite au sol.
Oui.
Parce que je dis ça parce que quand on passe en avion, qu'on voit des nuages, on est tenté d'aller s'allonger dessus. Ça
n'est pas... J'ai pas compris.
Non, je veux dire, on passe dedans, c'est de l'air, c'est de la condensation. Lisez mon livre.
Poésie. Mais justement, il y a un livre qui sort de l'Organisation mondiale de météorologie, c'est le nouvel atlas mondial des nuages. Et donc, il y a des petits nouveaux dans le club des nuages.
Alors, qui connaît déjà Cumulus,
Stratonimbus.
Le cumulonimbus.
Oui, cumulonimbus.
Il y a des trucs, oui.
Alors maintenant, on a le Flammagenitus, qui ressemble à une espèce de cascade.
Ouais.
Le Volutus, l'Homomatus, le Murus, l'Asperitas, le Sylvagenitus, le Fluctus. Il y a des très belles photos à voir sur Internet. Et ce qu'ils expliquent, c'est que plus de la moitié de ces nouveaux nuages, en fait, sont dus à l'activité humaine sur Terre, qui crée des nuages, qui crée des dessins dans le ciel.
C'est très joli. On va reprendre tous ces non-nuages avec une petite musique d'Armel. Premier nuage, le...
Flammagenitus.
Le Flammagenitus ressemble à une dame qui aurait oublié ses vêtements.
Le Volutus.
Le Volutus ressemble à votre voisin le jour où il descend les poubelles.
L'Homomatus.
L'Homomatus ne ressemble à rien. Sauf quand on allume la lumière, oula, évidemment, on regrette de l'avoir fait.
Le Murus.
Le Murus ressemble à un mur avec de l'us en plus.
Le Sylvagenitus.
Le Sylvagenitus est une petite saloperie, mais qui nous manque quand elle n'est pas là.
Et le Fluctus.
Le Fluctus, c'est toi, ce matin. Merci pour toutes ces informations. Un nuage, une explication. on est bien, on est droit dans nos bottes, on est propre. On termine avec vous, Titonus ?
Oui, Titonus. Alors, je vais terminer, je vais faire court.
Pourquoi ?
Parce que, je ne sais pas, je ne vais pas embêter les gens.
Bah non, les gens vous aiment.
Bonjour à tous. Ouais. Alors, un petit mot du Sud-Ouest, comme d'habitude. Il y avait eu un Tchoubeb, il y a eu Hébé. Et alors maintenant, voici un petit mot.
Ah, les mots, les mots, vous expliquez.
Un petit mot de nos anciens qui résume plein de choses en même temps. Alors, par exemple, quand on dit « regarde », on fait « t'es ». Alors c'est important de faire « un » et non pas « et » parce que « t » c'est vilain, c'est « t » avec un mot grave. Quand on dit « et voilà eh », ben, « t » on fait « t ». Quand on est surpris, on fait aussi « t ».
Mettez-le en situation, donc oui, le « t », oui.
Alors le « t » surpris, « t » et voilà, « t ».
Ah oui.
Aussi, alors il y a aussi « tiens, t ».
Oui.
Et puis on peut dire « regarde, t ».
Voilà, et si par exemple au lieu d'un coup de rouge, on vous a servi du « t »,
ah ben là on fait « t ».
Oui.
Parce qu'on peut changer en T sur ce moment-là, parce que ça devient
une semaine d'information.
Parce qu'en Provence, il y a le V.
Exactement.
Change de consonne et on passe de l'Est à l'Ouest, c'est beau la France.
Voilà.
Très bien, autre chose, Titonus ?
Oui, autre chose. Alors bien sûr, depuis le 11 mars, la pêche au carnassier est ouverte. Alors c'est le plus grand parc d'attractions de toute la France. Vous pouvez aller chez Mickey, vous pouvez aller voir Astérix. La pêche, quand même, on peut aller dans toute la France avec sa canne à pêche, dans un petit lac, une petite rivière, jeter la canne. Et alors le carnassier, c'est justement parce que c'est fermé l'hiver pour qu'il puisse se reproduire. Alors dans les carnassiers, on peut pêcher aussi au bord de la Seine. Hein. Dans les carnassiers, on pêche le brochet, le silure, la perche, le cendre, le black bass. Et quand vous mettez une canne à l'eau, ça permet de pas avoir d'appât. On monte une petite cuillère, on jette et on ramène, on jette et on ramène. Et quelquefois, on attrape un poisson.
Voilà.
Et croyez-moi, c'est bien une superbe attraction.
C'est bien. Et le carnassier, c'est passé toute cette famille de
Voilà, le carnassier, c'est un poisson qui mange d'autres poissons.
Oui.
Donc oui, c'est toute cette famille là. Hein, que ce soit, le brochet, le silure, la perche, le cendre.
Oui, oui.
D'ailleurs, l'expression « t'es ».
Comment ?«
T'es ».
Oui, « TV ».
Ouais.
« TV ». Bon, ben voilà. Il y a Armel qui a eu le générique à tout de suite.
7h-9h, plus près de toi. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h-9h, une actualité extrêmement actuelle.
Alors, Loubna Xidi, qu'est-ce que vous nous avez apporté ce matin, là ? Qu'est-ce que c'est ?
Alors, ce matin, on vous a apporté un bon petit déjeuner syrien.
Ben, vous avez bien fait.
Préparé par amour, par Mama Intissar, qu'on salue aujourd'hui.
On salue Mama Intissar. Alors, qu'est-ce que c'est un petit déjeuner syrien ? Ça a l'air beaucoup mieux qu'un croissant, café, jus d'orange préparé par Eugénie. Non, c'est pas vrai, c'est bien aussi. Alors, racontez-nous un peu ce qu'il y a.
Alors, un petit déjeuner syrien, c'est un mélange de sucré et salé. Aujourd'hui, on vous a apporté des petites tartines avec du houmous, du fromage labné et du zaatar. Donc, c'est un mélange d'épices et de thym. Et pour le sucré, donc, on a une brioche en forme de ruche, donc, d'où son prénom, la ruche, et des petits beignets à la pistache et aux amandes.
Alors, commencez, Atmen, mon vieux, parce que
c'est un festival de couleurs, il faut le dire. Non, mais c'est un festival d'essence.
Vous qui n'aimez pas parler, profitez-en pour manger. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce petit déjeuner ? Ça n'est pas juste pour provoquer l'auditeur en étant mieux achalandé que lui. Ça s'appelle Meet My Mama, My Mama. On est avec Youssef Oudaman, Denis Amamra et Loubna Xidi. Donc, racontez-nous un peu quelle est cette association. Qu'est-ce que c'est ? Oui, pourquoi je pose trois questions pour une ? Oui, quelle est cette association ?
Bon nom.
Okay, Youssef.
J'y vais. Alors, Meet My Mama, c'est une start-up d'innovation sociale qui a pour mission de révéler les talents culinaires de nos mamas qui viennent des quatre coins du monde. Pour comprendre pourquoi on a lancé Meet My Mama, c'est que déjà, on adore manger. Et on adore manger des cuisines qui viennent de tous les coins du monde. Et on s'est rendu compte qu'en France, on avait une vraie richesse, c'est d'avoir des mamas qui venaient de tous les continents et qui cuisinaient hyper bien et qui racontaient leur culture au travers de leur talent. Et nous, on s'est dit, on veut créer des rencontres, ça ne s'invente pas, entre ces femmes-là qui ont des savoir-faire depuis des décennies transmis de génération en génération, de mère en fille, et des clients, et des personnes comme vous, comme nous, qui adorent manger, qui voulons découvrir la culture au travers de leur talent.
C'est-à-dire qu'on a, c'est ça, on avait une mère normalement, c'est celle qui nous a donné le jour, qui nous a fait, quand on était enfant, des petits déjeuners ou à manger. Et grâce à Meet My Mama, on peut avoir d'autres mamans qui nous font à manger.
Exactement. Donc on a des mamans qui sont originaires du monde entier. Donc on a la Somalie, la Syrie, le Maghreb, l'Afrique du Nord, l'Afrique noire. Bientôt l'Amérique latine, le Sri Lanka, la Malaisie, l'Inde.
Alors Dounia Amamra, puisque vous avez pris la parole, comment rencontrez-vous ces mamans ? Comment rencontrez-vous ces mamans,
alors,
ces femmes ?
On rencontre ces différentes mamans à travers différentes choses, donc à travers les associations. Donc, on travaille avec des associations locales à Paris et des associations comme Singa qui s'occupent directement de l'arrivée des réfugiés en France. Mais les mamans ont également un réseau, puisque quand on connaît une maman syrienne, elle a une amie syrienne qui connaît une autre amie syrienne, et ça fait un petit peu le bouche à oreille qui marche beaucoup.
Alors comment vous faites? Vous allez les voir, vous dites voilà, est-ce que ça vous intéresserait de faire la cuisine? C'est une sorte de service traiteur en fait.
Exactement, en fait on a deux activités. Une activité traiteur pour les entreprises, à travers des buffets du monde et des plateaux repas, et un restaurant éphémère, donc le Meet Mayama restaurant éphémère, où on privatise un restaurant parisien et on organise un brunch ou un dîner.
Alors ça va vous changer, Thomas Baumgartner, vos petits déjeuners à la Sofra Gérec, où vous êtes, vous êtes assistant du DRH, vous vous emmerdez avec vos...
Oui, mais les madeleines sont dans un petit sachet.
Les madeleines sont dans un sachet, on dirait une phrase pendant une phrase codée. Je répète, les madeleines sont dans un sachet. C'est quand même plus riant, c'est plus amusant.
Non, mais c'est effectivement des couleurs, c'est assez magnifique. On a hâte de goûter, là. J'ai goûté un petit pain avec du sésame. J'ai l'impression qu'il y a vraiment plein de goûts différents. En plus.
Vous avez déjà des stars, vous avez déjà certaines femmes qui sont très demandées. On peut choisir sa mama, on peut choisir par qui c'est fait, ou c'est vous qui après dispatchez.
Exactement, on envoie un questionnaire et on peut choisir le pays. Et on a plein de mamans stars, notamment Nida, qui vient du Sri Lanka et de Malaisie. Intissar qui vous a aujourd'hui cuisiné tous ces bons petits plats, Nadera du Maroc et encore beaucoup d'autres.
Alors, est-ce qu'elles se déplacent? Est-ce qu'elles viennent? Par exemple, vous êtes dans une entreprise très très ennuyeuse, basée à la Défense, tout est gris, les gens sont gris, la nourriture est grise, le ciel est gris, le mur aussi. Est-ce que Madame Nida du Sri Lanka vient faire le petit déjeuner?
Oui, du coup, c'est un petit peu la particularité, c'est qu'on a vraiment essayé de réfléchir à l'expérience que pouvait avoir une personne lorsqu'elle prend son repas. Et donc, souvent, on fait venir la mama et les gens adorent, la mama adore, parce que ça permet de se rencontrer. La mama explique ses recettes, explique pourquoi elle a choisi de faire son plat et comment elle le mange dans son pays.
Alors, pour être mama, il faut vraiment être maman ou est-ce qu'il y a des papas qui sont mama ou il y a des mamans sans enfants qui ont le droit de faire la cuisine?
Qui se déguisent, en fait.
Oui, bah, comme vous. Oui, alors, il faut vraiment... Le statut de mama, comment on accède à ce statut de mama?
Non, en fait, on a choisi les mamas à la place des papas, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que souvent, c'était les femmes qui avaient du mal à retrouver un emploi, soit après avoir eu des enfants, soit en venant en France. Et donc, c'était vraiment une idée d'empowerment au féminin, de les soutenir.
Et puis, il y a aussi une vérité. Moi, je connais la fille d'Ahmed Khalif. Elle me dit, je n'en peux plus, je ne veux pas que ce soit papa qui me fasse mon petit déjeuner. Je veux aller à la DAS.
Mais voilà.
Mais si, c'est comme ça. Écoutez, alors, c'est formidable. Donc, Meet My Mama, on tape ça sur quoi?
Vous tapez ça sur Facebook.
Sur Facebook. Et alors, on vous appelle et quelqu'un vient faire un petit déjeuner.
Ah oui, et la maman peut venir à la maison préparer tout un repas, c'est ça en fait?
Exactement,
on peut le commander,
voilà,
pour un anniversaire, un mariage ou...
C'est ça.
Non, mais je demande. Absolument. Parce que je fais souvent des fêtes, moi, mais je...
Oui, ça n'a pas l'air terrible. Youssef Oudaman, Donia Amamra, Loubnaxi dit merci. C'est pas élégant ce qu'on va faire, mais on va passer un morceau de musique et de la pub pendant lequel on va se...
régaler.
Mais alors, mais qu'est-ce qu'on fait des infos de Thierry Paré, alors?
Alors, qu'est-ce qu'on en fait?
Ben, écoutez,
mais bon, on les met à l'antenne maintenant, vous avez... Atmen laisse la place à Monsieur Thierry Paré.
Attends, je suis là. Attends,
alors pendant ce temps-là, Thierry Paré, le rappel des titres de 7h31.
C'est
et
parfait.
On mettait un tout petit truc avant. Mettez un tout petit truc avant.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Des miaous, des wawa, des cotes, cotes, cotes.
Tous les animaux de la ferme sont là.
Qui font leur pain eux-mêmes.
7h, 9h.
Édouard Baer.
Il y a des matins où c'est plus difficile à appréhender que d'autres, ces changements d'ambiance et ce grand tout qui fait la vie. Thierry Paré, le rappel des titres de 7h32.
Et oui, évidemment, l'actualité est lourde. Réunie en urgence hier suite à l'attaque chimique présumée dans la province d'Idleb en Syrie, le Conseil de sécurité de l'ONU a repoussé le vote d'une résolution contre le régime syrien, le temps de négocier avec la Russie un soutien de Damas. Le texte présenté par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France pourrait être quand même voté ce jeudi. On va suivre ça de près, bien sûr. Le bombardement chimique présumé a fait 86 morts, selon un nouveau bilan, pour plus de 160 blessés. Quoi qu'il en soit, le ton a changé aux États-Unis. Donald Trump déclare que cette attaque chimique présumée ne peut rester impunie et que son attitude vis-à-vis de Bachar al-Assad a changé. France 2 ne renonce pas à une initiative présidentielle le 20 avril, trois jours avant le premier tour, mais celle-ci ne prendra pas la forme d'un débat à 11 comme c'était initialement prévu. La chaîne abandonne ce projet-là. Elle envisage à présent une autre formule, des entretiens séparés, individuels. Plusieurs candidats, Jean-Luc Mélenchon en tête, avaient marqué leur hostilité à un débat à 11, si près du premier tour. Jean-Luc Mélenchon qui réalise une percée, si l'on en croit un sondage Elabe. On parlait de dynamique en faveur du candidat de la France Insoumise ces derniers jours. Ce sondage semble la confirmer, avec 17% d'intention de vote, juste derrière François Fillon, 19%. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont toujours en tête de ce premier tour de la présidentielle avec 23,5%. Benoît Hamon lui serait à 9%. Nicolas Dupont-Aignan, 4,5%. Philippe Poutou, 1,5%. Les autres candidats sont derrière, bien sûr. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, met en garde les administrateurs d'EDF qui vont se réunir tout à l'heure. Elle entend obtenir leur vote en faveur de la fermeture de la centrale. Les administrateurs indépendants du groupe public ont la décision entre leurs mains. Rappelons que c'était une promesse de François Hollande pendant la campagne de 2012, cette fermeture de Fessenheim. Les Guyanais, qui occupaient depuis mardi le centre spatial de Kourou, ont quitté les lieux hier après s'être félicités de leur démonstration de force. Hier, le gouvernement a entériné en Conseil des ministres le plan d'urgence pour la Guyane, un plan d'un peu plus de 1 milliard. Les Guyanais n'y sont pas favorables, ils réclament le triple au moins. Attention, si vous êtes amené à emprunter la compagnie aérienne Hop, demain ou samedi, les hôtesses et stewards de cette filiale d'Air France sont appelés à cesser le travail pour réclamer des garanties sur leur emploi au sein du groupe. Le classement annuel... Le classement annuel des 50 meilleurs restaurants de la planète a été dévoilé hier en Australie. En tête du podium, on trouve Eleven Madison Park. C'est un resto new-yorkais dirigé par le chef suisse Daniel Lima.
Mina Sundiram de l'Express qui va venir en parler.
Très bien. Et puis ça passe pour Angers et le PSG qui ont rejoint hier soir Monaco et Guingamp en demi-finale de la Coupe de France de football. Angers s'est imposé 2-1 à domicile face à Bordeaux. Le PSG est allé s'imposer 4-0 sur le terrain d'Avranches. Le tirage au sort des demi-finales, il a déjà eu lieu juste après ces deux rencontres. D'ailleurs, le PSG recevra Monaco et Angers recevra Guingamp. Les matchs dans 3 semaines.
Merci Thierry. Voici maintenant Tito pour la météo sur un pied.
Donnez, donnez tout, donnez, donnez, donnez-moi. Donnez, donnez tout, donnez, Dieu vous le rendra. Hey, bonjour à tous, la Saint-Marcelin, Marcelino, Marceline, Marcelina, comme vous voulez. Aujourd'hui, il fait beau dans toute la France et c'est chouette. Les températures seront à Avignon de 8 à 18, à Bordeaux de 5 à 18, à Brest de 6 à 16, Dreux de 2 à 13, Évreux de 2 à 13, Marseille de 9 à 21, Metz de 3 à 13, Montpellier de 8 à 21, Paris de 4 à 14, Pau de 5 à 18, Reims de 1 à 13, Vienne de 4 à 14, Cayenne 27 et 28. On m'a donné tout, donné, donné, donnez-moi, donné, donné, tout, donné, et Dieu vous le rendra. Donné, donné, tout, donné, donné, donnez-moi, donné, donné, tout, donné, Dieu vous le rendra.
Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour, moi je traîne nanana.
Merci, Ahmed Mathias.
Attends, vous écoutez.
Dis donc.
Écoutez, monsieur Baird. Vous m'avez coupé.
C'est magnifique, c'est le fils de Sarkozy, Enrico Macias, j'arrive à faire. Et moi, c'est difficile comme imitation.
Attends, j'imite très très mal, mais j'assume.
Vous c'est imitez ma nouvelle... mal, mais longtemps. Mais il paraît que c'est pareil quand vous embrassez. Tout de suite, la rue Jacques Souvent.
Asian Chicken 91. Asian Chicken 91. Vous faites votre pause jus d'orange après 10 heures de jeu, c'est ça?
Oui, c'est ça. Comme le font tous les autres gamers, ils prennent leur pause habituelle.
Vous avez joué combien de temps, là?
Là, 10 heures.
10 heures, et à quel jeu? Quel jeu c'était?
League of Legends.
D'accord.
Et je joue aussi Counter-Strike Global Offensive, c'est-à-dire c'est un jeu de guerre que vous butez juste pour prendre le territoire à l'ennemi, en fait. Et si vous êtes un antiterroriste, vous faites juste diffuser la bombe pour que vous gagnez la partie.
Vous êtes dans quel état, là? Vous êtes fatigué? Vous êtes...
On va dire un peu, oui. La fatigue, c'est commence à monter, oui.
Ouais. Les yeux?
Les yeux, ça va.
Bonjour, Asian Chicken 91.
Oui, bonjour.
Vous connaissez Asian Chicken 90?
90? Non, mais 91, c'est moi, oui.
Oui, mais vous connaissez pas les autres dans la famille Asian Chicken?
Du tout.
Mais les autres étaient pris. C'est, vous n'êtes pas parti du chiffre. Vous êtes parti du poulet chinois, du poulet asiatique. Vous êtes parti d'Asian Chicken et on vous a dit il ne reste que le 91 de disponible.
Non, parce que c'est comme c'est YouTube qui m'a mis que ce pseudo dispo. Du coup, et comme c'est un pseudo éligible, du coup, j'ai pris ce pseudo-là. Ouais.
Il vous a proposé que ça. Vous n'aviez pas du tout envie d'évoquer l'univers de l'Asie ni le monde du poulet.
C'est ça, et honnêtement, parce que 1991, c'est ce que c'est ma date de naissance, donc j'ai mis...
Donc 91, c'est un choix personnel, donc là quand même on se rapproche de votre vérité, votre date de naissance, hein, on est donc sur du 25-26 ans. Ouais. Chicken, là peut-être, c'est pas du tout un choix, vous n'avez pas envie de rendre hommage au gallinacé, le monde du côte-côte et du cocorico.
Oui, voilà, en fait, Chicken, c'est venu... entre amis. Et en fait, on a choisi ce nom. Du coup, j'ai laissé ce pseudo entre potes.
D'accord. Donc, excusez-moi, mais donc vous étiez en train d'accuser YouTube et on allait faire un procès pour vous avoir imposé un pseudo. Pour le moment, vous assumez et le 91 et le chicken. J'en viens au Asian. Est-ce que c'est trop vaste pour vous l'idée d'évoquer tout un continent pour un homme? Vous n'auriez pas choisi Asian?
Asian, ça signifie asiatique tout court, en fait.
Oui, mais et ça vous va parce que c'est quand même beaucoup de monde. C'est plusieurs milliards de personnes. Donc, effectivement, il y en a plus.
Oui, voilà, c'est en fait, j'ai mis Asian parce que c'est pour représentant l'asiatique comme juste chinois. Et voilà.
Est-ce que vous connaissez African Beef 72?
African Beef, du tout, non.
Et European Vegetable 11, qui est un autre gamer, non?
Du tout, mais je connais Cyprien Squeezie, ouais.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nom de gamer un peu sympa, un peu cool, qui fasse rêver sous les douches?
D'autres gamers? Jérém Star, alors.
Ouais, mais est-ce que vous, par exemple, quand vous rencontrez des gens en dehors du game et des jeux électroniques, vous finissez par oublier, vous présentez comme ça? Et par exemple, il y a une fille qui dit « Salut, je m'appelle Cathy », vous dites « Salut, c'est African Chicken 91, Asian Chicken 91 », non?
Ah non, je ne dirais pas mon pseudo de cyber.
Ah voilà, vous avez une identité cyber et une identité dans la vie non
réelle.
Dans la vie réelle. Ouais.
Voilà.
Parce qu'au bout de 10 heures de jeu, si peut-être que vous confondiez la virtualité et le réel, comme Atman Kelly.
Ouais, on va dire comme ça.
Bon. Le prénom dans la vie, c'est Vallon.
Oui, voilà.
Vallon, c'est très beau.
Ah, c'est moins bien.
Ah non, c'est beaucoup mieux.
Mais moi, j'aime bien. Donc, Asian, j'adore Asian.
Vallon, c'est. Écoutez, tout est bien, monsieur, je vais vous dire franchement.
On peut préciser qu'ici, il y a, je ne sais pas, une centaine d'écrans.
Non, on ne peut pas le préciser.
Il y a des fours micro-ondes, on peut manger des nouilles.
Non,
à deux heures
monsieur Vallon est extrêmement sympathique. Là, voilà la vérité. Et ça vous choque, Jacques Souvent. Hein, parce que, Jacques Souvent, vous n'avez pas l'apanage, vous n'avez pas le monopole de la sympathie. Et Asian Chicken 91 est très sympathique. Et le côté Asian, et le Chicken, et le 91, et même le Vallon. Tout me plaît ce matin. Alors, merde! Alors, viens boire un coup. À tout à l'heure, les gars.
Avec plaisir.
On a un petit déjeuner syrien amené par l'association Meet My Mama. Il faut comment aller sur Meet My Mama sur Facebook.
Je veux revenir aussi sur le café qu'ils nous ont apporté, qui est magnifique.
Vous articulez très, très bien, Atmen. Oui. À tout de suite, les gars.
Le café magnifique.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment.
Alors donc, Thomas Ribi, vous êtes l'un des rares à continuer à s'intéresser d'une façon sérieuse au monde de l'Eurovision. Et là, il y a du lourd, Thomas Ribi.
Ah bah oui, parce que c'est quand même quelque chose de sérieux. Alors j'entends évidemment les mauvaises langues.
J'entends déjà les commentaires.
J'entends déjà les commentaires qui vont nous dire que l'Eurovision c'est nul, que les décors sont moches, que les chansons sont pourries, que les paroles sont cru-cruches, qu'il n'y a aucun enjeu. Eh bien non, c'est faux. Cette année, il y a de l'enjeu. Un vrai gros enjeu politique. Cette année, l'Eurovision, c'est la guerre.
Ah.
Et je vais vous expliquer pourquoi.
Pas mal. Attends, normalement, après un truc comme ça, vous voyez, Armel, je pensais comme une bande-annonce. Il faut qu'on fasse... Et je vais vous expliquer pourquoi.
On peut
pourquoi.
Le refaire.
Oui, alors, dites la dernière phrase.
Du vrai gros enjeu politique. Cette année, l'Eurovision, c'est la guerre. Et je vais vous expliquer pourquoi.
Si vous savez du tout...
Thomas Ribi, les dessous de tout ce qui est dessus. Il y a le dessus qui n'intéresse pas. Qui est la chemise ou le pantalon, et après, c'est beaucoup plus intéressant.
Il y a le dessous.
Il y a les soutiens-gorge d'Atmen. Bon, allez.
Bref,
pardon.
Tout a commencé en 2014. La Crimée, une région ukrainienne, est annexée par la Russie. Les Ukrainiens sont furieux, la communauté internationale proteste, mais les Russes ne cèdent pas et contrôlent toujours ce territoire. Et l'année dernière, en 2016, les Ukrainiens ont pris une toute petite revanche. Lors de l'Eurovision, ils ont envoyé pour les représenter une chanteuse tatare de Crimée. Alors les tatares de Crimée, c'est une minorité ethnique qui vit donc en Crimée. Et cette chanteuse s'appelle Jamala. Et elle chante, on va écouter sa chanson. Alors je vais me permettre, si vous me l'autorisez, de faire la traduction en direct.
Et puis on notera, nous.
Voilà, alors vas-y. Quand les étrangers arrivent, ils viennent dans votre maison. Ils tuent tout le monde et ensuite ils disent qu'ils ne sont pas coupables. Pas coupables.
Crimée.
C'est bon.
Un point. Creamy white
point. Mais non, 13 points.
À 13 points.
Mais c'est pas du tatar.
Je vais pas m'excuser d'avoir une très belle voix.
Pardon, on chante en anglais à l'Eurovision.
Non, l'Eurovision, on chante en anglais.
Je sais pas. Enfin, donc c'est en tout cas, la chanson ne remporte pas tous les suffrages. Donc c'est assez politique, elle est assez violente.
Voilà,
donc les étrangers, c'est qui?
Je vais vous expliquer.
Ah pardon,
oula. Justement, c'est une chanson qui raconte l'histoire des Tatars de Crimée qui ont été massacrés et déportés en 1944 par Staline, donc par des Russes. Et les Russes, l'année dernière, ont protesté. Ils ont dit, c'est une chanson politique, vous essayez de faire passer un message anti-russe, c'est interdit de faire de la politique à l'Eurovision, c'est un scandale. Et les Ukrainiens ont répondu, mais pas du tout, c'est une chanson historique, ça n'a rien à voir avec la politique.
En ukrainien, tout ça.
Tout ça, ça se passe en ukrainien ou en russe. Et là, c'est aux organisateurs de l'Eurovision de trancher, et les organisateurs de l'Eurovision décident que cette chanson n'est pas politique et que Jamala peut concourir. Et là, pour les Russes, c'est le drame. Jamala gagne le concours haut la main.
Avec,
et
cette,
en plus,
chanson.
Avec cette chanson. Et en plus, elle pique la première place à l'ultra favori, qui était évidemment le chanteur russe. Re-scandale en Russie, il proteste, mais l'histoire s'arrête là. Sauf que le pays qui gagne l'Eurovision est celui qui l'organise l'année suivante.
Ah.
Donc cette année, l'Eurovision a lieu à Kiev, en Ukraine. Et les Russes, rancuniers, ont pris
une petite revanche. Oui.
C'est le 13 mai prochain.
Ah, oui, j'ai...
Et ils ont inscrit leur chanteuse à eux, qui s'appelle Yulia Samoylova. Je vais me permettre de tenter de traduire, si vous m'autorisez, ses paroles en direct. Et elle chante ceci.
Ça en a envie.
Attends, excuse-moi, Armel.
Attendez, Armel.
On l'a refait.
Pour un tel moment, ça serait dommage.
Heureusement qu'on n'est pas en direct.
On y va.
On y va. Le jour et la nuit, je ne fais que rêver. Je pense en regardant le plafond. J'aimerais avoir des réponses. J'aimerais avoir le courage de savoir.
C'est bon.
Oui,
c'est juste.
C'est dommage que ce soit pas vous.
Ah ben exactement. D'ailleurs, tu m'envoies leur vision.
Pour la France.
Alors, si vous avez pu vous concentrer sur les paroles, on est bien d'accord que là, il y a aucun problème avec les paroles.
Non.
Sauf que Yulia Samoylova a donné un concert en Crimée en 2015, et l'Ukraine interdit d'entrer sur son territoire tous ceux qui ont mis les pieds dans la région depuis l'annexion par les Russes. Résultat, l'Ukraine refuse que la chanteuse pénètre
donc,
sur son territoire.
Donc, choix politique de la Russe, un chien de sa chienne. Quoi,
on peut l'imaginer, oui, on peut l'imaginer. Là encore, les Russes protestent, ils disent que c'est contraire à la philosophie de l'Eurovision. Et en plus,
philosophie à l'Eurovision.
Et de ne pas accepter les chanteurs. Et en plus, la chanteuse est handicapée physique. Elle chante dans un fauteuil roulant. Et donc, les Russes insistent sur le côté particulièrement cruel et inhumain de la décision ukrainienne.
Ah, elle est inattaquable, oui.
Elle est inattaquable. Et au milieu de tout ça, encore une fois, il y a les organisateurs de l'Eurovision qui doivent trancher.
Elle caresse un bébé chat quand elle chante.
Un bébé chat malade, blessé à une patte. Je vous rappelle que les règles de l'Eurovision stipulent qu'on ne peut pas faire de politique lors du concours. Là, on peut bien reconnaître que c'est quand même genre plutôt un échec. Et les organisateurs, donc, cherchent un compromis. Ils ont proposé que la jeune Yulia chante depuis la Russie et que sa prestation soit retransmise par satellite. Les Russes ont refusé catégoriquement, ce serait injuste, ce serait un désavantage pour elle pendant le concours. Les Ukrainiens, de toute façon, ne sont pas d'accord non plus. Ils disent qu'ils ne veulent pas entendre parler de la chanteuse, même à distance. Alors cette semaine, les organisateurs de l'Eurovision ont fini par s'énerver. Ils ont exhorté l'Ukraine à laisser chanter Yulia Samoylova. Et ils menacent même le pays de l'interdire de participer au futur concours s'il ne respecte pas les règles. On attendait la réaction des Ukrainiens. Elle est arrivée samedi dernier. Le vice-premier ministre, en personne, a publié une vidéo sur YouTube et il est catégorique, il refuse définitivement que la chanteuse russe participe au concours.
Il y a toujours la solution Marie-Myriam, de rappeler Marie-Myriam.
Marie-Myriam, si elle nous écoute, on l'embrasse. Les Russes refusent d'envoyer un autre chanteur. Ils vont donc sans doute boycotter l'Eurovision. L'Ukraine va sans doute être exclue des prochaines éditions. Et donc, je vous l'annonce. Et je vous l'annonce aujourd'hui solennellement. Je l'annonce à la France en direct. Je pense que cette année, c'est pour nous. Je m'engage. Je l'écris sur cette table. Je parie
c'est
sur le fait
chance.
Que la France va gagner.
C'est notre chance.
Et si la France ne gagne pas,
Qu'est-ce que vous faites?
Eh bien, je m'engage solennellement à venir dans ce studio, si vous m'y invitez, évidemment. Et à présenter mes excuses aux Français qui sont très nombreux à nous écouter, je le sais, et à leur dire je suis désolé, je vous ai fait rêver, mais franchement, je m'engage, et franchement, je suis assez bon en Eurovision. Je signe un papier, cette année, c'est pour nous.
Merci Thomas Ribi. Est-ce que vous concourez cette année?
Malheureusement, ils n'ont pas voulu de moi. Ah, je courrais dans la catégorie danse.
On ne comprend pas.
Dans la catégorie danse.
L'année prochaine.
Non, mais... À tout de suite, cher maître.
Pour le plaisir.
7h, 9h. Plus près de toi.
On va pas avoir la guerre à cause de ce concours de merde. On va pas avoir la guerre à cause de ce concours de merde, quand même.
C'est entre ce qui me sait, je pense que c'est...
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi?
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
Il s'appelle comment ce chat, Romy et Avril?
Hein? Mookie. Il s'appelle Mookie. Le premier s'appelait Junior et le deuxième, Il s'appelle Monkey.
Et est-ce que, parce que quand on est deux sœurs avec un chat, est-ce qu'il y en a une qui est plus responsable de s'en occuper ou pas?
Non, mais souvent, je change sa litière.
Tu dis? Il faut lui changer
souvent,
sa litière.
Je change sa litière.
Oui, les Catmen aussi. Et dites-moi, alors, vous faites des sports? Qu'est-ce que vous aimez bien faire?
Moi, je fais du multisport. Ça veut dire un peu... plusieurs sports comme du hockey, de la gym,
et tout à
du
la fois.
Foot.
Donc t'as un pied qui donne un coup de pied dans le ballon, de l'autre
non,
tu fais du hockey.
Mais il y a plusieurs activités.
D'accord, mais ça c'est à l'école ou c'est en dehors?
Non, c'est pas à l'école, c'est une activité.
C'est activité en dehors et à l'école vous faites des trucs. Toi, qu'est-ce que tu fais toi, Avril?
Moi, je fais de la boxe.
Ah bon?
Je
oui,
fais d'accord. Quatre sports.
Oui, mais tu fais de la boxe sur ta sœur ou comme un vrai sport?
Je m'en utilise sur ma sœur aussi.
Oui, oui, c'est bien, bien sûr.
Je fais de la boxe, je fais du chant, je fais du piano et je fais de la course d'endurance à l'école.
Bah dis donc, t'es en occupé. Est-ce que t'as déjà essayé de faire du piano avec des gants de boxe? Pas facile. Hein,
les accords, c'est plus facile, mais à part ça, non.
Oui, c'est pour taper sur le piano. Qu'est-ce que tu fais avec le micro, Romy? tu vas nous le foutre en l'air, là? Tu arrêtes de jouer. Bon, alors les filles, vous avez chacune un poème. Comment ça s'est organisé, ça?
Moi, je trouvais que comme le mien, il faisait un petit peu peur, j'allais le réciter.
D'accord. Et tu sais, alors, t'as dit bas. Moi, j'ai une fille qui dit tout le temps bas. Pourquoi on dit bas tout le temps? C'est pour gagner du temps? T'as commencé ta phrase par bas. Eh oui.
Bas.
Alors, Romy et Avril, alors tu m'as dit, c'est ma petite sœur qui doit commencer.
Oui.
Et tu es d'accord, toi, Romy? Oui. Très bien. Alors, on écoute ton poème. C'est un poème de Maurice Carême, je crois.
Non. Karine Persil.
Karine Persil, que je connais moins. Que vous connaissez, Atmel, vous?
Non, pas Karine Persil. Mais je vais le découvrir.
Oui, très bien. On t'écoute, ma chère Romy.
Monsieur Printemps, le mois de mars, un secret que je vais vous raconter. Il nous prépare doucement l'arrivée de Monsieur Printemps. Monsieur Hiver n'est plus le roi. Dame Nature reprend ses droits. Les fleurs apparaissent dans les champs pour saluer Monsieur Printemps. Le soleil réchauffe de ses rayons les ailes fragiles des papillons. Tout reprend vie lentement grâce au bienveillant Monsieur Printemps, Karine Persillet.
Superbe. Et Karine Bravo. Était cachée dans le poème. Ce que tu l'as dit dans le poème, Karine Persillet, elle était dedans. C'est joli les poèmes sur le printemps. Moi, quand j'étais petit, il y en a un qui s'appelle « Mars qui rit malgré les averses, prépare en secret le printemps ». Mais le tien était très joli. Bravo, Romy.
Petite hirondelle qui nous a amené le printemps.
Comment, Atmen? Il est moins bien. Non, c'est moins bien, vous.
Ah bon?
Non, vous, c'est pas bien. Non, je vous le dis, c'est gentiment, c'est pas bien. Autant, Romy, c'est formidable.
C'était moins bien.
C'était très joli, hein, mais pas... moi, je n'ai pas aimé. Hein.
Ah bon? Oui. Vous n'avez pas aimé? Non.
Tu as aimé le poème d'Atmen? Hein, le poème d'Atmen, il a dit la petite hirondelle. Bon. Oui, ça n'a pas fait l'unanimité. Bon. Alors, on écoute maintenant Avril.
Ouais, c'est bof.
Oui, c'est un peu bof.
Alors. Moi, mon poème, c'est l'heure du crime de Maurice Carême.
Ah oui, aux différentes ambiances. D'accord. L'heure du crime.
L'heure du crime.
Oula.
Minuit, voici l'heure du crime. Sortant d'une chambre voisine, un homme surgit dans le noir. Il ôte ses souliers et s'approche de l'armoire sur la pointe des pieds et saisit un couteau, dont l'acier, lui, bien aiguisé. Puis, masquant ses yeux de fouine avec un pan de son manteau, il pénètre dans la cuisine et d'un seul coup, comme un bourreau, avant que ne crie la victime, il ouvre le cœur d'un artichaut. Maurice Carême.
Formidable, bravo aussi. Hein, vous voyez, Atmen. Et vous, Atmen, vous avez...
Moi, je ne peux pas mieux parce que c'était très bien.
Vous avez deux verres de quelque chose?
Oui. Mort à cheval au galop. Ces mots, quand on les dit, font soudain que l'on pâlit. Honte à qui meurt dans son lit.
C'est moi bien. Hein bon, bah, les filles, qu'est-ce que vous en pensez?
J'ai pas du tout compris,
oui,
en fait.
Oui, non, puis même, moi j'ai compris, ça n'a pas arrangé la chose, vous voyez.
Bon.
J'ai pas passé un moment. Les filles, vous êtes formidables. Vous partez pour les vacances, là, vous faites quoi?
On va à la mer.
À la mer?
On va partir à Carnac.
Mais dis donc, alors, Carnac en Bretagne, est-ce que vous êtes assez courageuse pour vous baigner à Carnac au mois d'avril?
Eh ben moi, j'étais à... Cet été, j'étais au Canada avec ma tata. J'ai fait un pari, j'ai prouvé que je pouvais rester au moins une minute dans le Saint-Laurent.
Une minute dans le Saint-Laurent, même Depardieu ne le fait pas.
Trois minutes.
Oui.
Trois secondes.
Trois secondes.
Mais trois minutes, trois secondes, c'est trop facile.
Non, moi, trois secondes, je ne le fais pas.
J'ai parié une peluche et j'ai gagné.
Bon, et toi,
dans le Saint-Laurent,
et toi,
oui.
Romy,
il est très froid.
Tu crois que tu vas te baigner ou pas?
Je sais je sais pas.
Bah à la limite, tu mets un manteau très chaud, puis tu vas dans la mer avec.
Oui. Moi, j'ai parié que je restais une heure dans le Saint-Émilion.
Non, voyez, c'est pas bien ce que... Alors, les filles, je vous embrasse très fort, je vous raccompagne vers votre papa, pendant que Thierry Paré s'installe pour le journal.
Bravo. Au revoir les filles, bravo.
Bravo les filles. Bravo.
Bravo.
Réunis en urgence hier, suite à l'attaque chimique présumée dans la province d'Idlib en Syrie, le Conseil de sécurité de l'ONU a repoussé le vote d'une résolution contre le régime syrien, le temps de négocier avec la Russie, soutien de Damas. Le bombardement chimique présumé, on parle de gaz sarin, a fait 86 morts selon un nouveau bilan, pour plus de 160 blessés, beaucoup d'enfants dans les victimes. En conférence de presse hier, Donald Trump a déclaré que cette attaque chimique présumée ne peut rester impunie et que son attitude vis-à-vis de Bachar el-Assad avait changé. France 2 en réveil. Ça n'ira pas plus loin. Il n'y aura pas de débat à 11 candidats sur la chaîne 3 jours avant le premier tour. France 2 abandonne son projet, faute d'accord entre les candidats. Pas de débat à 11, mais une initiative quand même. La chaîne envisage à présent des entretiens individuels. Je ne sais pas si la date du 20 avril est maintenue, mais a priori pour l'instant, elle l'est. Un sondage Elab place Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête du premier tour de cette présidentielle avec 23,5%. François Fillon serait troisième avec 19%. Le candidat de la droite serait talonné, entre guillemets, par Jean-Luc Mélenchon, crédité de 17% des intentions de vote. Il fait un bon, clairement. Benoît Hamon serait à 9%, Nicolas Dupont-Aignan serait à 4,5%, Philippe Poutou 1,5%, les autres candidats sont derrière. Le ministre de l'Économie...
Derrière 1,5%, c'est bien.
Oui, derrière 1,5%, bah après c'est plus compliqué. C'est plus quoi. Hein, il y a 1% pour Jean Lassalle.
Asselineau est à 0,2%, les autres sont loin derrière.
Ouais, c'est ça. La ministre de l'Écologie, Ségolène Royal, met en garde les administrateurs d'EDF qui vont se réunir vers 14h aujourd'hui. Elle entend obtenir leur vote en faveur de la fermeture de la centrale. C'était une promesse de François Hollande lors de la campagne de 2012. Voilà, les administrateurs...
Vous voulez dire
pour l'instant, non. Oui.
Parce qu'il y a ceux qui tiennent les promesses, même celles des autres, et il y a ceux qui ne tiennent pas les promesses.
Mais il n'est pas le seul à avoir les clés en même temps de cette petite affaire. Là, en l'occurrence, ce sont les administrateurs indépendants du groupe public qui ont la décision entre leurs mains. Alors que les Guyanais qui occupaient depuis mardi le centre spatial de Kourou ont quitté les lieux hier après s'être félicités de la démonstration de force, de leur démonstration de force, le gouvernement a entériné en Conseil des ministres le plan d'urgence pour la Guyane, un plan d'un peu plus d'un milliard. Ça ne satisfait pas du tout les Guyanais qui réclament au moins le triple. Et puisqu'on parle de grève, sachez que les hôtesses et stewards de la compagnie Hop, filiale d'Air France, sont appelés à cesser le travail demain et samedi pour réclamer des garanties sur leur emploi au sein du groupe. 11 livres 50, soit un peu plus de 13 euros. Bon, c'est la somme dont on doit s'acquitter, s'acquitter les conducteurs qui souhaitent traverser le centre de Londres. Certains d'entre eux, les plus polluants, devront payer une quinzaine d'euros de plus à partir de 2019, toujours dans le centre-ville, soit 24 livres, 28 euros, juste pour traverser une zone de 21 km², soit l'équivalent d'un cinquième de Paris intramuros. Ce nouveau péage, qui pourra être réglé en ligne ou par téléphone, sera en vigueur tous les jours 24/24. Seuls les taxis londoniens en seront exemptés. 6 restaurants français figurent dans le classement annuel des 50 meilleurs restos de la planète.
On va en parler à Mina Sundiram, la journaliste qui vient d'arriver. Ne vendez pas la mèche.
Enfin, je ne vends pas la mèche, je donne quelques infos. Oui. Il y en avait 3 seulement dans le précédent classement, donc c'est pas mal quand même. On est mieux.
Alors sur la Guyane, j'espère qu'en plus de l'argent, qu'il y aura beaucoup d'actions symboliques, dont celle qu'on avait évoquée ici, c'est de rajouter sur la carte météo de la France à la télévision, de rajouter les départements et territoires d'outre-mer. Je trouve symboliquement, ça serait important.
D'autant que c'est une belle île, la Guyane.
Mais même si ça n'était pas une belle île, d'abord, ça n'est pas une île, je vous signale, du tout. Mais
c'était un hommage à Emmanuel Macron.
Ah, pardon.
J'avais très jamais appuyé, pensé à ça.
C'était bien trop facile, d'ailleurs.
Je sais pas, je vous trouve un peu moqueur.
C'est vrai,
sur les réseaux sociaux, cette radio est censée être très associée à Emmanuel Macron. Je lis parfois sur Internet. Vous êtes tous vendus à Macron, alors que moi, je suis derrière Dupont-Aignan. Ah merde, je l'ai dit.
Ah merde. Ah, vous l'avez dit.
Je l'ai dit.
Ça t'a échappé.
Je l'ai dit. Atmen.
Ça passe pour Angers et
Atmen Lassalle. Comment?
Non, j'avais fait.
Quoi? Ah bah oui, vous êtes le neveu.
De.
Bah si, vous êtes le.
Il m'a fait il y a très longtemps.
Oui, avec Tito Arto qui parlera après. Pardon, vous n'avez pas fini.
Non, aussi un mot de football pour vous dire que le PSG et Angers se qualifient pour les demi-finales de la Coupe de France de football. Le PSG sera opposé à Monaco. Le PSG recevra et Angers sera opposé à Guingamp et c'est Angers qui recevra.
On va faire Angers-Guingamp là. Mettez-vous là.
Oui.
Tiens, alors attends. Tiens.
Attention.
Ça c'est le ballon.
Oui.
Allez, vas-y. Superbe dribble de Guingamp, attention, but et rebut, c'est magnifique. On rejoint tout de suite Jacques Souvent dans la rue.
Ben nous, Lionel, il disait que c'était sympa cette petite rencontre inopportune parce que vous allez parler business et pognon. Salut Edouard, je suis ravi de vous entendre.
Ben moi aussi Lionel, c'est super cette petite rencontre inopportune parce qu'on va pouvoir parler business et pognon.
Ouais, de quand vous voulez.
Je vous récite un poème d'abord, comme la petite fille tout à l'heure.
Oh, si vous voulez.
Je suis complètement incapable.
Bon, bah alors pourquoi vous voulez parler pognon ce matin, Lionel?
J'étais parti pour avoir une matinée un peu terne dans la tour Montparnasse, et puis je rencontre Jack. Ouais. Il est formidable, votre bonhomme-là.
Ah, il n'est pas terne, Jack. Ça, c'est pas les couleurs qui manquent.
Non, c'est pas les couleurs qui manquent. Vous allez au 53e étage.
Le bleu de ses yeux, le rouge de son nez.
Non, le nez n'est pas rouge. Pourtant, il fait froid ce matin. On part au 53e de la tour, il fait beau, on va voir la vue sur la tour Eiffel, c'est formidable.
Vous travaillez dans la tour Montparnasse, Lionel ?
Ouais, ce matin on travaille dans la tour Montparnasse.
Mais vous y êtes dans les bureaux ou vous êtes en entretien ?
Non, là on est en entretien, on part pour vendre, pour mobiliser les équipes commerciales pour vendre de l'acier, du bon acier français, Edouard.
Alors attendez, donc là vous allez, y a l'acier français représenté dans des bureaux de la tour Montparnasse ?
Exactement.
Donc là, comment on motive les gars en leur disant « Allez, on va en vendre de l'acier, les gars ».
Je sais pas, j'avais pour idée de vous demander de venir là, pour faire un show.
Vous arrivez, vous dites « Alors les gars, qu'est-ce qui se passe là ? J'ai de l'acier russe, de l'acier slovène, de l'acier indonésien. Vous êtes nés où, les gars ? Vous êtes nés en France ? Alors ? Qu'est-ce que vous... Alors ? On va pas tout le temps acheter ? Alors ? Michel, arrête de boire pendant la réunion. Alors, là, à ma droite, j'ai un baril d'acier japonais. Oh, on me dit rien, et là, c'est tout mou. Quel est cet acier tout dur ? C'est de l'acier français, doux au toucher, résistant thermiquement, très bon compagnon pendant la nuit, et rigolo la journée. C'est l'acier français.
Oh la vache, mais attendez, je prends des notes là.
Tu vas en fourguer, Lionel, de l'acier. Et qui c'est qui va prendre 10% puisque tu voulais pas les pognons ? C'est Bibi, c'est Bébert.
Oh, voilà, avec plaisir. Bon. Je l'ai réuni tout à l'heure. Il y a des Russes, il y a des Chinois.
C'est formidable. Et oui, en plus, dites-leur bien que ça peut servir à tout, l'acier. J'ai perdu mes dents, des dents en acier. J'ai perdu ma femme, une femme en acier. Un moral en acier. Du béton en acier, du bois en acier.
Et de l'humour en titano, vous êtes formidable.
Vous êtes formidable, Lionel. Je vous laisse avec Jack souvent. Embrassez-le sur la bouche, de ma part.
Oui, d'accord.
Très belle journée dans la tour Montparnasse. 54 étages de bonheur.
Merci beaucoup.
Kikirou coucou, à tout de suite. Musique, ma folie, fais-moi danser.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte.
La voix de Pat, notre camarade Pat, qui est à Angers en ce moment à la suite de quelques
erreurs
de choix.
Et qui est à Paris ce week-end dernier, qui était très beau, qui était magnifique.
Qui est libéré les week-ends. Ouais. Alors, Thierry Paré en parlait dans son journal, c'est ce fameux avec un S mal placé. Oui. Le World 50 Best, Mina Sundiram, bonjour.
Bonjour.
Ce sont les 50 meilleurs restaurants du monde, dit en anglais. Mina Sundiram, vous êtes dans cette émission qui s'appelle Très Très Bon, vous traitez de la finger food, la street food, vous êtes spécialisée dans cette émission, vous voyez arpenter les rues et manger avec vos doigts de la nourriture, quel beau métier. Et vous êtes aussi à l'Express. Qu'est-ce que c'est que ce classement et en quoi c'est important pour un restaurant d'être dans le World 50 Best ?
Et c'est le classement des 50 meilleurs restaurants du monde. C'est un classement londonien qui est organisé par un groupe de presse, le William Reed Business Media.
Alors pourquoi c'est si important ? C'est transparent, on sait qui vote ?
Non, justement, il y a une espèce d'opacité autour de ce classement. Il y a 1000 experts qui votent, des gourmets, des chefs, des journalistes, des restaurateurs. Et il y a une espèce de débat autour, c'est-à-dire que les chiffres ne sont pas évalués, on ne sait pas comment sont les sondages sont effectués. Ouais. Voilà. Et puis il y a des histoires de copinage entre les chefs. Et souvent, les chefs votants se retrouvent dans le classement.
Et vous avez l'impression que tout le monde couche avec tout le monde.
Exactement.
Tout le monde mange avec
dans
comme
ce
dans,
milieu
votre
de
métier,
façon,
Atmet, dans votre métier, cinéma. Pas avec le cinéma, c'est
le cinéma. Mais qu'est-ce que c'est que ce métier où tout le monde couche avec tout le monde.
Dans la nuit américaine de Truffaut, on dit ça.
Un peu comme Nathalie Arthaud, elle parlait comme ça au débat. J'ai trouvé que Nathalie Arthaud, au débat, elle parlait comme la servante dans la nuit américaine. Elle disait, mais qu'est-ce que c'est ? Découvrez la politique.
Alors on revient sur le podcast.
Focus.
Écoutez, ta maman, mon gars. Mina Sundiram, donc c'est 50 meilleurs restaurants. C'est comme un guide, c'est comme le guide Michelin, quelque chose comme ça, ou c'est une sorte de bible ?
À mon sens, ce n'est pas aussi prestigieux que le guide Michelin.
Mais pourquoi est-ce qu'on en parle tout à coup aux actualités, aux informations ? C'est très annoncé. Même Thierry Paré, qui n'a jamais été au restaurant de sa vie, à part chez Flunch, pourquoi est-ce que tout à coup ça l'intéresse ?
On s'est pris au jeu.
Pour ça que vous... Bien sûr, je ne dis du mal que des absents.
On s'est pris au jeu. À la base, c'était une blague dans un magazine. C'était un petit classement dans le magazine Restaurant. Et puis ça a pris une telle ampleur que finalement, maintenant, les chefs se prennent au jeu. c'est pas aussi important que le guide Michelin, c'est pas une institution, mais ça devient quelque chose, ça remplit des restaurants.
Ah, ça, ça, donc ça marche.
Oui,
c'est, lu par les gens et les gens. Qui a été le grand restaurant en France, par exemple, qui était chouchou de ce classement?
C'est le Mirazur à Menton de Mauro Colagreco, qui s'est hissé à la 4e place.
Et alors, une fois que vous êtes là-dedans, c'est réservé sur des semaines, des mois?
Des mois.
Bonjour,
aussi.
Je voudrais une table pour deux. Quelle année, monsieur? Ça se passe comme ça. Et cette
Exactement.
Année, alors, il y a une petite révolution.
Voilà, cette année, Thierry m'a spoilé. Donc, on passe de trois restaurants Paré. Français. Thierry Paré.
Oui, non, mais les gens n'étaient pas forcément là.
On est passé
il
de trois restaurants.
Il a moins bien dit que vous.
Exactement. On est passé de trois restaurants français à six. Donc, on avait déjà le Mirazur de Mauro Colagreco, l'Arpège d'Alain Passard et Alain Ducasse au Plaza Athénée.
Oui, un désormais, menu tout légumes.
Exactement. Il y a Yannick Aleno au Pavillon Le Doyen, qui prend la 31e place, l'Astrance de Pascal Barbeau à la 46e place, et un de mes restaurants préférés à Paris, pas loin, rue de Charonne. Je ne sais pas si ça vous parle.
Je sais pas.
Un restaurant une étoile, rue de Charonne.
Je suis Septime.
Oui, exactement.
Alors
Septime de Bertrand
Grébeau. C'est forcément des restaurants très très luxueux, très somptueux, avec des additions épouvantables, ou il y en a qui sont dans des prix normaux?
Non, c'est forcément des restaurants pour la plupart étoilés. Par exemple, le restaurant qui est élu meilleur restaurant du monde, il faut débourser 295 dollars, soit l'équivalent de 280 euros.
Pour s'asseoir déjà. Pour...
Sans alcool. Donc avec l'alcool, il faut compter le double.
Oui, alors ça dépend. Sur le 4 mètres, c'est très vite le triple.
Exactement.
Évidemment.
C'est pour ça que je regarde.
Donc c'est un repas d'une vie, quoi. C'est une chose.
C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je ne pense pas qu'on y aille peut-être.
C'est comme un jour, on fera du saut à l'élastique. Donc c'est un restaurant américain cette année qui est en tête.
C'est un restaurant américain, mais c'est un chef suisse d'ailleurs qui porte bien son nom. Il s'appelle Daniel M.
Daniel, pardon.
M.
Ça doit prêter un dégât en cuisine. Quand quelqu'un fait un goût, il fait il fait juste et lui fait oui, quoi.
Bon, dis donc, c'est fini.
Non, mais vous voyez, non, mais il y a gag.
Mina, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette affaire-là?
La France est plutôt bien représentée. On est avec six restaurants dans le classement. On est bien, tout comme l'Espagne et les États-Unis. Moi, j'ai un seul regret.
Oui.
C'est qu'il y ait uniquement des restaurants parisiens. Ah, aucun restaurant en région.
Et Menton.
Et Menton, quand même.
Menton.
Un restaurant
en région. Vous êtes
alcoolisé. Le relais des cigales à Menton. Tu rappelles le relais des cigales?
Le relais des cigales à Menton, c'était de la merde.
Non. Vous rappelez, vous m'avez enlevé deux étoiles. Vous m'avez enlevé deux étoiles. Vous m'avez ruiné.
C'était pas
maintenant, je vends de la merde.
Vous n'allez pas me faire un sketch de l'aile ou la cuisse avec une punaise pendant ça. Merci Mina. Dites-nous des noms de plats pour nous faire rêver avant.
De plats?
Oui.
Les riz de veau...
À l'escabèche. Bon, merci beaucoup Mina Sundiram. Donc, 6 Français dans les 50 mondiaux. Ouais. La France n'est pas foutue.
Est-ce qu'il y a un magazine qui va sortir, qui va colporter, enfin, qui va mettre tous les noms à l'intérieur pour qu'on puisse choisir?
Non, mais
un peu comme le guide Michelin ou le fooding, non?
Dis donc, François Asselineau, tu vas te calmer?
Mais je demande.
Non, on peut déjà trouver la liste sur Internet. Je peux vous la communiquer.
Voilà, il faut appeler Mina Sundiram à l'Express ou dans son
06,
émission très très bon, vous l'avez vraiment mangé.
Ou essayer de décrocher son 06.
Donc vous êtes en train de manger à la télévision, c'est
exactement.
Un beau métier.
Hein, ouais.
Vous avez de la chance. Ouais. Merci, et on a de la chance de vous voir. Merci Mina Sundiram.
Merci.
Je mange devant la télé, c'est aussi bien.
Dis donc. Il est 8h20, qui a dit « Aimons-nous vivants ?» N'attendons pas que la mort nous trouve du talent.
Moi je sais, François Valéry,
en effet, bravo.
N'attendons pas que la mort nous trouve du talent.
En effet, à tout.
Mieux que Ziribi, je chante.
En effet.
D'accord.
Voilà. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Parce que je vous mets très en vedette et puis après vous cachez tout. Le Marie Missé, la revue de presse.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Missé.
C'est laquelle?
Elle est là. Bonjour.
Bonjour Marie.
Bonjour.
Vous m'avez dit que vous n'avez pas dormi.
Peu. Mais tout va bien. Dans la presse ce matin, Le Parisien s'intéresse aux femmes de Daesh, ces femmes qui épousent le djihad. Libé s'inquiète pour les enfants d'Assad, c'est la une, empoisonnée au gaz sarin et dont les photos déclenchent de nouvelles positions médiatiques et diplomatiques, notamment de la part de Trump, un fou, je cite Libé, dont on ne sait pas si l'on préférerait qu'il intervienne ou s'abstienne. Le Figaro continue de taper sur le débat d'avant-hier soir en une, spectacle surréaliste, une litanie de soliloques, mais à quoi s'attendre quand, je cite, on place la loufoquerie sur un pied d'égalité avec l'essentiel. Et l'égalité, c'est d'ailleurs un peu le thème de cette revue de presse Alors que La Croix fait sa une sur le FN qui inquiète, Les Échos publient un plaidoyer pour les statistiques ethniques en France et partent du principe qu'en matière d'immigration, plus encore qu'en tout autre sujet de campagne électorale, l'ignorance nourrit la peur et que l'absence en France de statistiques sur l'origine des populations permet tous les discours politiciens, toutes les manipulations de l'opinion, tous les fantasmes, y compris les plus délirants. De ce refus de voir la réalité naît un paradoxe, rendre plus visible, mais de façon déformée, ce que chacun s'évertue à ignorer. Et ce refus d'avoir recours, comme tant d'autres pays, aux statistiques ethniques, puise sa raison d'être, justement, dans un dogme très français, souvent rétif à la réalité, l'égalitarisme strict et formel. Le plaidoyer termine sur ces mots. L'absence de données ethniques favorise tous les amalgames. Il est temps d'en sortir. Dans Libé, on a justement un exemple d'un endroit où l'on accepte de regarder les différences de culture dans les yeux. Libé consacre un papier à une police modèle, celle de Fuenlabrada en Espagne. C'est à quelques kilomètres de Madrid, ville de 200 000 habitants, où les immigrés représentent 16% de la population, 30% chez le jeune. Et je cite, où les relations entre la police et les jeunes sont beau fixe, pas de délit de faciès, pas d'agissement raciste, islamophobe, sexiste, pas de passage à tabac. Et curieusement, les habitants, je cite toujours Libé, parlent de leur police avec respect, parfois même avec reconnaissance. Alors est-ce que vous vous rappelez de cette promesse de François Hollande de fournir un récépissé en cas de contrôle d'identité ? Eh bien dans cette ville d'Espagne, ils l'ont fait. À chaque contrôle, à chaque interpellation, les agents doivent dresser un procès-verbal avec récépissé. Y sont mentionnés la durée du contrôle, son motif, l'âge, le sexe et la nationalité du citoyen. Citoyens contrôlés. Résultat, il y en a beaucoup moins et ils sont plus efficaces. Et puis, il y a aussi dans cette police des agents formés à la compréhension et à la connaissance des diverses cultures. Résultat, il y a des responsables de l'autorité palestinienne, par exemple, mais aussi des responsables israéliens, mais aussi l'ONU, qui sont venus voir comment la police faisait, justement, à Fuenlabrada. Et puis, le dogme de l'égalité à la française prend aussi cher dans le Figaro. C'est Yves Meyer qui se charge de le fustiger, mathématicien français qui vient de recevoir le prix Abel, qui reste humble comme tout. C'est un choix hautement discutable, dit-il, à propos de son prix. Il est aussi connu pour être un professeur merveilleux. Et quand on l'interroge à propos des mauvais scores de la France au classement PISA, hein, qui classe les résultats de l'éducation, il explique « Le problème vient du collège unique. Tout le monde doit avoir la même chance. C'est bien sur le papier, mais ça ne marche pas. Si le niveau est trop élevé, la moitié de la classe ne pourra pas suivre. S'il est trop bas, les meilleurs ne progresseront pas. » Résultat, un système éducatif en panne, comme en témoigne le beau papier de Libé sur des jeunes entrepreneurs des quartiers nord de Marseille qui réussissent sans formation et qui ne cessent de répéter que le système ne leur a rien donné et qu'ils n'en attendent rien. D'ailleurs, ils ne votent pas. Pour terminer cette revue de presse en chemin de traverse, je vous conseille cette courte et belle interview du réalisateur éthiopien Haile Gerima, auquel le Jeu de Paume consacre une rétrospective. Il réside depuis ses 21 ans aux États-Unis. Il ne vote pas, même contre Trump, mais il résiste. Les Trump vont et viennent, dit-il. Le monde restera. C'est à nous de le rendre meilleur. Quand on lui demande de s'expliquer sur cette distance vis-à-vis de son pays d'adoption, il dit « Oui, je suis un étranger. Je l'assume et je le revendique. Je n'ai jamais eu envie de devenir américain. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 21 ans en Éthiopie. Ma culture est éthiopienne, mon cinéma est éthiopien. Mon père était dramaturge, il a combattu les fascismes mussoliniens. Je sais ce que signifie avoir une histoire militante. Je crois profondément que cultiver l'esprit de résistance guérit les êtres. Je crois aussi que le cinéma y contribue à sa manière. » Puis, plus loin dans l'interview, il dit « De toute façon, la planète dont je rêve n'existe pas. Disons qu'en attendant, je me cache aux États-Unis. »
Merci beaucoup Marie Missé. Le classement PISA, oui, le classement des écoles. Vous êtes classé dans des choses, vous, Thomas Baumgartner, Atmenkeli, vous êtes en bonne place dans des classements ou pas? Vous êtes
Moi, j'étais premier de ma classe jusqu'à ce que mes parents divorcent. Puis après,
oui.
Voilà quoi.
Oui, donc vous pensez que tout est de la faute de
mes parents. Ouais. Voilà, tout est de la faute des parents.
Et vous, Thomas?
J'ai ma deuxième étoile.
Au ski?
Ouais.
C'est quoi? C'est quand on... Alors,
c'est juste après le chasse-neige.
Alors, vous skiez parallèle?
Oui.
Vous prenez les vertes?
Tout droit. Bleu, oh oui, les vertes, ouais.
Rouge.
Non, je m'arrête. Non,
vous prenez les marmottes, les éperviers, vous ne la prenez pas. Vous
jamais les éperviers.
Vous redescendez par les œufs.
Ouais. Oui, toujours.
Pour se taper un bon petit génépi
en haut.
Au chamois, là-haut.
Vous êtes contente, Marie, du plus qu'on a eu grâce à ce...
Ah oui, je trouve que c'est un parti beaucoup.
Oui.
Même si la seconde étoile n'est pas un classement du tout.
Oh, quand même.
Parce qu'on est parti du général vers le particulier. C'est ça qui est une vraie réussite dans
la
ce moment de radio.
La petite histoire pour raconter la grande.
J'ai l'impression qu'on vit un moment de radio.
Non.
Je crois pas.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi? Ah.
On comprend pas tout, mais c'est bien.
Edouard Baird, attendez.
J'ai failli prendre la parole.
Qu'est-ce qui se passe? Soyons précis. Attendez. Salut, il y a Thomas. Thomas, vous arrivez avant Yacine, hein? Vous arrivez souvent avant Yacine, vous
c'est
travaillez
moi qui
plus.
Bosse, c'est moi qui bosse.
C'est vous, Thomas.
Oui, c'est moi.
Mais au moment du salaire, c'est lui, vous m'avez dit.
Oui, c'est ça, c'est lui qui prend tout.
Thomas des 30 Glorieuses est déjà là. À tout de suite, cher ami. Dites-moi, ça ne serait pas le journal de Thierry Paret?
Mais je crois que oui.
Il paraît. À l'heure, pourquoi c'est pas parti?
Parce qu'il est là déjà.
Il est là.
Certains auraient aimé la même réaction lors d'un bombardement de la coalition internationale le 17 mars dernier à Mossoul en Irak qui avait provoqué la mort de plusieurs dizaines de civils. En conférence de presse hier, Donald Trump a déclaré que l'attaque chimique présumée dans la province d'Idlib en Syrie ne peut rester impunie et que son attitude vis-à-vis de Bachar al-Assad avait changé. Réuni en urgence hier, suite à cette attaque chimique présumée, le Conseil de sécurité de l'ONU a repoussé le vote d'une résolution contre le régime syrien. Le temps de négocier avec la Russie, un soutien de Damas, ce bombardement, on parle de gaz sarin, a fait 86 morts selon un nouveau bilan, dont de nombreux enfants, pour plus de 160 blessés. Nous ne reverrons sans doute plus les 11 candidats à la présidentielle côte à côte sur un même plateau de télé, enfin en tout cas pas sur France 2, ça c'est sûr. La chaîne qui envisageait un débat de ce type le 20 avril, soit 3 jours avant le premier tour, a renoncé, faute d'accord entre les candidats. Pas de débat à 11, mais une initiative quand même. La chaîne envisage à présent des entretiens individuels. Promis, on vous bassinera pas trop avec les sondages, mais un petit peu quand même. Selon l'Institut Elab, Emmanuel Macron et Marine Le Pen arriveraient en tête du premier tour avec 23,5%. François Fillon serait 3e avec 19%. Le candidat de la droite serait talonné entre guillemets par Jean-Luc Mélenchon, crédité de 17% des intentions de vote. Benoît Hamon serait à 9%, Nicolas Dupont-Aignan 4,5%, Philippe Poutou 1,5%, et les autres sont derrière bien sûr. C'était une promesse forte de François Hollande pendant la campagne présidentielle de 2012, la fermeture de la centrale de Fessenheim. Les administrateurs EDF vont se réunir vers 14h aujourd'hui et ils pourraient bien ne pas entériner cette fermeture. Le gouvernement a entériné en Conseil des ministres le plan d'urgence pour la Guyane, un plan d'un peu plus d'un milliard. Les Guyanais refusent, hein, ils réclament le triple au moins. Hier, ils ont mis fin à leur occupation du centre spatial de Kourou, se félicitant de leur démonstration de force. Attention, si vous êtes amené à emprunter la compagnie aérienne Hop, demain ou samedi, les hôtesses et stewards de cette filiale d'Air France sont appelés à cesser le travail pour réclamer des garanties sur leur emploi au sein du groupe. Alors moi, je vais pas vous le cacher, extrêmement déçu du classement annuel des 50 meilleurs restos de la planète qui a été dévoilé hier en Australie, parce qu'il n'y a rien sur Flunch. Alors, je sais pas du coup quelle crédibilité on peut accorder à ce classement. Classement qui a placé en tête le resto Eleven Madison Park, resto new-yorkais dirigé par le chef suisse Daniel Hume.
Bon, on peut faire le sien, on peut faire le classement des restaurants où on va.
Oui, ça peut marcher aussi,
vous,
c'est vrai.
Vous allez parfois déjeuner à côté de Nova
Ouais, au Bariolet par exemple, c'est pas mal, dans Belleville.
Et vous pensez que le fait de les citer vous permettra de bouffer à l'œil?
T'es malin. On s'est compris.
Ah, il est fortif, papa, pareil.
Voilà, une autre info quand même, ça passe pour Angers et pour le PSG qui ont rejoint hier soir Monaco et Guingamp en demi-finale de la Coupe de France. Angers s'est imposé 2-1 à domicile face à Bordeaux, tandis que le PSG est allé s'imposer 4-0 sur le terrain d'Avranches. Le tirage au sort des demi-finales, il a eu lieu dès la fin de ces deux rencontres. Et le PSG recevra Monaco, une espèce de revanche hein, après la défaite de Monaco en Coupe de la Ligue. Et puis Angers recevra Guingamp, les matchs se dérouleront dans 3 semaines.
Voilà, tout ça, hein,
tranquille.
On y va, petit coup de foot, un petit resto, je te pousse au Bariolet, un petit coup de rouge et vas-y les infos. Tito, c'est la météo.
Oui, j'ai trouvé un copain pour être avec moi.
Bah c'est Admet Kelly.
Donnez-moi, Dieu vous le rendra.
Hey! Alors aujourd'hui, c'était pas mal.
Vous avez bien fait de l'inviter.
Marcelino, Marcelina, bonne fête! Alors attention pour les températures, hein. Jeune de 3 à 18, Amiens de 3 à 14, à Beauvais de 2 à 14, Corté de 6 à 18, Laval de 4 à 16, Limoges de 4 à 16, Melun de 3 à 13, Nantes de 4 à 17, Saint-Étienne de 1 à 11, Tours de 4 à 14 et Cayenne de 27 à 26. Donnez-moi, Dieu vous le rendra.
Vous croyez qu'on n'a pas assez d'emmerdes en ce moment? Vous croyez qu'on s'est bien comporté avec la Guyane, que vous disiez les températures à l'envers, les autres c'est croissant, vous dites de 5 à 12, et là Cayenne vous dites 27 et 26.
Oui, je ne sais pas pourquoi.
Vous savez qu'ils vont refuser même les catégories avec des mecs comme vous, moi je refuserais tout.
Je sais pourquoi, j'ai pris des vraies températures, parce qu'il ne pleuvait pas cette nuit et il pleut dans la journée. Oh, ouais. C'est pour ça que c'est passé à 26, on a perdu un degré dans l'après-midi.
Pardon à tous nos amis de Guyane, on part avec Jacques souvent, mais où?
Carolina, vous avez une vitesse de folie.
Oui, je vais au travail, là.
gentil, mais moi, j'arrivais pas à suivre.
Mais pourquoi vous me suivez déjà?
Ben oui, c'est bizarre, oui.
C'est bizarre.
Je sais pas, alors, qu'est-ce que vous voulez savoir?
Tout.
Ok.
Ah.
Vous êtes femme de ministre, femme de...
Non, non, on n'a dit pas de politique, s'il vous plaît.
Oui.
Vous êtes célibataire?
Non.
Et votre travail, là, c'est à quelle distance?
C'est à 500 mètres.
Ce petit accent, c'est quoi?
Colombienne.
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 Carolina?
Oui.
Bonjour, dites-moi, quand Jacques Souvent vous a dit, quand vous lui avez demandé qu'est-ce que vous voulez savoir, il vous a dit tout, vous avez dit OK.
Non. Enfin, s'il ne me pose pas de questions, je ne peux pas vraiment répondre.
D'accord, donc vous n'avez pas peur de ces questions, c'est plus vos réponses dont vous vous méfiez?
Oui, je me méfie, il a une tête bizarre.
Oui. Est-ce que vous vous méfiez de vous-même ou avec vous, vous êtes bien?
Non, ça va, je suis bien avec moi. Avec le monsieur ici qui m'interpelle dans la rue, que je ne suis pas très à l'aise.
Non, mais vous courez plus vite que lui. Est-ce que vous entretenez de bonnes relations avec vous-même, Carolina?
Oui.
Comment vous faites? Qu'est-ce que vous aimez bien? Qu'est-ce qui vous fait plaisir chez vous?
Qu'est-ce que j'aime bien faire ou qu'est-ce que j'aime
non,
bien
en vous, des aspects de votre personnalité que vous aimez?
J'aime bien que j'ai un côté multiculturel. J'habite en France depuis longtemps et je parle plusieurs langues.
Oui, mais alors par exemple, ça, le matin, ça vous fout la pêche. Vous mettez de bonne humeur, vous levez et dites « Oh là là, j'ai mal à la tête. » Oui, mais j'ai quand même un aspect multiculturel et ça vous pousse pour la journée?
Ben non, j'aime bien mon travail aussi.
Ah, qu'est-ce que c'est?
Je fais la collecte des fonds.
Ah, vous allez collecter des fonds, mais pour vous ou vous les reversez à quelqu'un après?
Non, c'est la collecte des fonds pour les enfants du monde.
D'accord, et ça s'appelle comment alors? C'est une association, c'est quoi?
Ouais, c'est une organisation internationale.
Et vous allez demander à des particuliers ou à des groupes?
À des particuliers plutôt seniors.
Seigneur, bah justement, il y a Jacques Souvent qui est là, essayer de le convaincre de verser des fonds.
Bah, je vais faire ça juste après, là, il faut que j'y aille, je dois travailler.
Entraînez-vous un petit peu, entraînez-vous, Carolina, entraînez-vous avec lui. Comment vous arrivez à convaincre quelqu'un de verser des fonds?
Et alors, déjà, il faut que la personne ait une sensibilité. Vous pensez que les enfants, c'est une cause importante?
Ben oui, Jacques.
Moi, je suis convaincu de ça, oui.
Vous n'êtes pas une ordure, vous pouvez quand même sortir un peu de la caillasse de votre poche. Donc là, pour le moment, c'est bon.
Un chèque direct, là.
Donc un peu de sensibilisation et ensuite?
Et ensuite, bah, on parle un peu de la situation actuelle des enfants, leurs droits, pourquoi ils ne sont pas respectés dans certains endroits, qu'est-ce qu'on fait pour les faire respecter et voilà.
Et ben, je crois que là, si Jacques Souvent ne sort pas quelque chose de sa poche, c'est vraiment... on mettra des photos de lui sur Internet. Merci Carolina.
Ok, merci à vous, bonne journée.
Très belle journée à vous. Retour studio par le biais d'une mini-musique. Atmen Khelif, bonjour. Vous avez été maltraité ce matin alors que vous êtes allé au cinéma hier, mercredi.
Oui, tout à fait.
Vous avez vu beaucoup
non,
de films
film,
récemment.
Qu'est-ce que le cinéma.
Qu'est-ce que vous avez vu?
Non, je voulais revenir
nous parler de quel film?
Sur À bras ouverts. Encore hier, il y avait Burke, en gros, dans Le Parisien.
Ah, c'est le film avec Christian Clavier. Où, paraît-il, on parle très mal des Roms.
Oui. Et ce matin, il y avait encore un micro-trottoir où les gens disaient « on n'a pas aimé, c'est raciste ». Enfin, je pense que tous les gens sont un petit peu... ils ont été influencés un petit peu par la critique et par l'Alali qu'il y a eu déjà depuis 6 mois, puisque le film s'appelait déjà « S'il vous plaît » avec François Damiens, qui est parti pour être remplacé par Harry Habitant. Bon, voilà, tout ça parti. Moi, je voulais juste revenir sur la comédie en France et la resituer par rapport à ce pourquoi le film a raté sa cible. Moi, je pense que la comédie de tout temps a souvent été servie des travers de nos contemporains pour s'en moquer et faire rire. Elle est souvent réussie quand, dans l'intrigue, celui qui se méfie, se braque et se moque est au final conquis par la sincère et profonde humanité de ses parasites. Alors, un salaud qui se paye la tête d'un abruti, c'est quoi? Le dîner de con. Un bourgeois qui supporte mal des campeurs ringards, bon, c'est camping. Un Marseillais qui redoute la beaufrie des gens du Nord, les ch'tis. Voilà, tout ça est situé, ça a été réussi. C'est sur ce schéma classique et éprouvé que s'articule À bras ouverts, le film de Chevron. Mais le film, là, rate sa cible, car le film met en avant plus les défauts, on va dire, des Roms, mais leurs défauts sur l'hygiène, sur le fait... Sur
les défauts supposés,
sur leurs poncifs, leurs défauts ancestraux. On ne connaît que ça et on appuie sur des clichés. Et en fait, il rate sa cible parce que le metteur en scène se gargarise de ça pour faire rire. Et le message, le vrai message ne passe pas. Le message, c'est de raconter l'hypocrisie,
la fausse générosité de son personnage principal qui est Christian Clavier. Voilà. Alors, évidemment, c'est une alali contre ce film-là, parce que la bienséance et les moralisateurs arrivent et attaquent. Et en fait.
Il reste un goût amer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'empathie pour le personnage
voilà,
du
roman. Voilà, il n'y a pas d'empathie.
Et l'autre est juste hypocrite, et les personnages ne sont pas sauvés.
Voilà, les personnages ne sont pas sauvés, il n'y a pas de sympathie, il n'y a pas de rapprochement. Voilà. Et c'est en ça que le film est plus ou moins raté. Mais en même temps, on a envie de dire à Philippe de Chevron, peut-être qu'il a été inconscient dans cette espèce de provocation. Mais en même temps, il a le droit de le faire. Parce que depuis, je pense, des années et des années, on met en avant Qu'est-ce qu'on met en avant ? La liberté d'expression oui. française, voilà, dans la caricature. Eh bien, c'est une caricature, ce film-là. On doit le laisser passer, on doit le laisser vivre et faire son propre avis. Je pense que les Roms ne se plaignent pas qu'on parle d'eux, qu'ils fassent rire. Et je trouve ça très très ambitieux et même assez malin que tout d'un coup, au lieu d'en faire une caricature comme ça dans la rue, dans les trucs, on en parle et on en rit avec eux.
D'accord, mais voilà. Vous pensez que c'est aussi parce que c'est peut-être un Rome et ça n'est pas les Roms. Derrière chaque personnage, ce n'est pas un archétype.
Oui, mais parce que tout d'un coup, je crois que ce qui a été raté, c'est de dire que c'est dans les films, dans les autres comédies, on se moquait d'un comportement. Là, on se moque d'une ethnie.
D'une communauté ou d'une
ethnie. Ethnie. Et c'est en ça que... Ethnie, voilà.
Très bien.
Moi, ça m'a un peu troublé de parler de ça, mais je voulais le dire.
Oui, je vous ai senti fragilisé par vous-même et c'était assez touchant. Je vous remercie, cher Atmen.
Merci.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi. Une émission extrêmement racoleuse.
Face à nous, Jean Stern. Dans nos bras, le bulletin mensuel d'Amnesty International. À ma gauche, Thomas Baumgartner.
Oh là, la mise en place est terrible. Bonjour Jean Stern.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef de la chronique d'Amnesty International, le bulletin mensuel d'Amnesty. Et vous venez régulièrement nous en parler.
Vous avez cette voix qu'on aime, en plus de votre physique. Vous avez votre physique.
J'ai du mal à rivaliser avec vous, mais j'essaye.
J'adore votre voix.
Merci.
Et donc, dans ce numéro du mois d'avril, ce qui est abordé, c'est la question des libertés. En France,
oui.
Et c'est une manière de faire le point après combien 5 votes successifs sur l'état d'urgence.
Exactement, c'est un peu ça, l'état d'urgence qui est prolongé jusqu'au 15 juillet 2017.
Et on ne sait pas qui va le lever ou le prolonger.
On ne sait pas qui va le lever ou le prolonger, absolument. Et c'est d'ailleurs une des données du problème. Ouais. Hein, c'est que si certains candidats sont élus à la présidence de la République, on peut craindre encore plus que ce qu'on connaît aujourd'hui pour nos libertés publiques.
Rappelons d'ailleurs, excusez-moi, parce que moi, il y a les plans Vigipirate, jaune, orange, rouge. Et l'état d'urgence est encore au-dessus.
L'état d'urgence est encore au-dessus. C'est le degré suprême, ça a été voté par le Parlement. C'est normalement quelque chose qui est exceptionnel, qu'on met en place dans certaines périodes, mais qui se prolonge quand même depuis maintenant novembre 2015, donc depuis plus d'un an et demi, et qui en plus est renforcé, c'est peut-être ça le cœur du problème en réalité, par toute une série de lois. À chaque fois qu'on fait une loi sur ceci, programmation militaire, surveillance du web, ceci, on rajoute des petites couches, des petites mesures qui s'accumulent, et au bout d'un moment, on se dit, et le constat que j'ai fait dans cet article avec des avocats, des magistrats, des juges, toutes sortes de gens très sérieux par ailleurs, et tout à fait honorables et pas du tout excités, on va dire, c'est que si quelqu'un d'autre que des socialistes ou des démocrates en général prennent le pouvoir dans notre pays, on peut craindre beaucoup pour les libertés publiques.
C'est ça, parce que sinon c'est toujours un peu difficile et impopulaire dans les périodes de menaces terroriste d'avoir l'air d'attaquer, on a l'impression d'être un mauvais citoyen. Quoi.
Bien sûr, d'autant que, si vous voulez, au cas citoyen, ni vous ni moi, ni même la plupart des journalistes, on va décortiquer la loi de programmation militaire, la loi de sécurité intérieure, la loi ceci, la loi cela, et que même les avocats et les juges, il y a des lois qui sont votées pratiquement tous les deux mois en France sur ce type de sujet, et depuis, non pas 5 ans, mais depuis plus de 20 ans, ça a commencé avec les lois Pasqua dans les années 90, donc on accumule, ce qui fait qu'au fond, plus personne ne s'y retrouve, et surtout pas nous, les citoyens.
Mais justement, vous dites, vous recueillez la parole, je crois, d'un avocat dans cet article de la chronique d'Amnesty International qui dit que cette accumulation, cette constitution, cet arsenal législatif liberticide dont vous venez de parler, Jean Stern, n'est pas forcément même d'il y a 20 ans, mais il considère que dès la libération, ça a été une montée progressive de lois liberticides.
Exactement, cet avocat qui s'appelle Ari Halimi, on peut lui rendre hommage parce que c'est un avocat qui en plus défend des gens qui ont été arrêtés et placés en rétention administrative dans le cadre de l'état d'urgence, précisément. Il explique qu'au fond, on a eu un pic des liberté après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, et que depuis, les régimes, les pouvoirs n'ont jamais cessé d'essayer de réduire ces libertés, d'une certaine manière, en s'inspirant, c'est la pensée d'un philosophe italien, il s'appelle Agamben, en s'inspirant du camp de concentration. Et qu'au fond, la logique du système aujourd'hui, des systèmes, est de transformer nos sociétés en camp de concentration, où chacun serait placé sous une surveillance plus ou moins permanente.
Le mot est fort, le mot est fort.
Le mot est fort, Stern. Absolument. Il n'est pas de moi, d'ailleurs, hein. Je ne fais que le citer. Mais il est intéressant, parce que c'est vrai que le fait qu'on puisse être surveillé dans chacun de nos gestes quotidiens, y compris par nos téléphones portables, qui sont le meilleur des dépisteurs pour les pouvoirs, et que la loi autorise, pour vous, pour moi et pour tous nos auditeurs, à nous surveiller en permanence, sans que nous le sachions.
Chacun son mouchard.
On est complice de notre propre surveillance.
Alors vous parlez aussi dans ce dossier, Jean Stern, de l'action de la contestation. Et il y a des témoignages sur l'action de la désobéissance civile, qui pourrait revient en fait sur le devant de la scène sur cette question-là, pour contrer les éventuels les lois liberticides dont vous parlez.
C'est assez intéressant, parce que la question de la désobéissance civile revient, non pas seulement en France, mais un peu partout dans le monde. C'est-à-dire que face à l'arbitraire des situations et l'arbitraire des législations liberticides, les gens se posent la question de trouver d'autres moyens d'action, en général en se dirigeant vers la non-violence, en se dirigeant vers l'autonomie par rapport à la manière dont le système fonctionne. Donc l'exemple le plus intéressant aujourd'hui, c'est par exemple l'exemple des citoyens qui aident les migrants dans la vallée de la Roya, qui n'ont pas décidé d'en faire des communiqués, des meetings, des machins et tout. Ils ont agi sur le terrain, ils ont considéré qu'ils enfreignaient la loi, très clairement, en aidant les migrants, mais qu'au fond, ça soulageait leur conscience et que c'était leur devoir d'humanité.
Alors qu'est-ce qui est le plus liberticide aujourd'hui ? C'est ce renforcement d'état d'urgence, ou c'est le traquage commercial, nous comme clients permanents ?
Ça en fait partie, hein, d'une certaine manière, parce qu'on a vu hier d'ailleurs que des gens qui s'inscrivaient, qui allaient voir les sites de certains candidats aux élections présidentielles, automatiquement, ils étaient référencés, qu'on pouvait leur envoyer des mails ciblés en fonction de leur supposé centre d'intérêt.
C'est vrai que si on va voir des choses sur Fillon, on reçoit tout ça, des offres immobilières de châteaux dans la Sarthe.
Par exemple, absolument, c'est en tout cas une possibilité technique qui est offerte aux exploitants du site internet de François Fillon.
Alors voilà, ça c'est dans le dossier de la chronique d'Amnesty International France, les libertés à la peine, ça vient juste de paraître, c'est le numéro du mois d'avril. Un petit mot sur un livre qui n'a rien à voir avec votre activité avec Amnesty International, c'est un livre que vous signez, Jean Stern, aux éditions Libertalia, Mirage Gay.
Vous avez deux actus, Jean Stern.
Oui, deux actus.
Mirage Gay à Tel Aviv.
Il y en a une troisième la semaine prochaine pour le prochain passage.
Mirage Gay à Tel Aviv, c'est une enquête. C'est un peu la suite de la conversation, parce que vous présentez Israël comme un pays hyper sécurisé qui, en même temps, met en avant une forme de libéralisme des mœurs, un paradis.
Tel Aviv,
paradis touristique homosexuel. Vous parlez de pinkwashing. En deux mots, ça veut dire quoi?
Alors, pinkwashing, on pourrait traduire ça en français, ça veut dire lave plus rose au fond. Ouais. Hein. Ça veut dire qu'on repeint le plafond en rose et on essaye de faire passer la réalité de Tel Aviv, qui est une plaisante cité balnéaire où, c'est vrai, il y a une vie sociale gay, et pas seulement gay, il y a une vie sociale gay-friendly, on va dire, pour la réalité d'Israël. Alors, la réalité d'Israël est en réalité que c'est un pays plutôt homophobe, majoritairement homophobe, c'est un pays plutôt conservateur, c'est un pays où le religieux a beaucoup de place, et surtout, c'est un pays qui opprime les Palestiniens, y compris les gays palestiniens, qui vivent un double enfermement, à la fois comme Palestiniens et comme gays. Donc, c'est ça que j'ai voulu raconter un peu. C'est le récit à la fois d'un pays où les gays sont très en pointe. Le premier ministre Netanyahou, à chaque fois qu'il va à Washington, va parler des gays, et en même temps, ça ne correspond pas du tout à la réalité de ce qu'est Israël aujourd'hui.
Voilà, donc c'est Mirage Gay à Tel Aviv, chez Libertalia.
Je salue Galuchovski, le scénariste, et son ami Ethan Fox, ces grands réalisateurs scénaristes de Tel Aviv.
Dont je parle dans le livre.
Mariage gay à Tel Aviv, Jean Stern chez Libertalia. Ah oui, j'ai dit mariage.
Vous mariez, les gars, c'est vrai, bah, écoutez, bien. Oui.
Bon, et puis alors, allez voir donc ce nouvel. Ça se trouve dans les kiosques, l'Amnesty International.
Ça se trouve par abonnement, et ceux qui veulent le recevoir peuvent me faire un mail. Ils écrivent à chronique@amnesty.fr et je leur envoie immédiatement.
Merci,
et après,
Jean Stern, The Voice.
Merci.
7h-9h, plus près de toi.
Ça va ?
7h-9h.
Édouard Baird.
Je passe une matinée. Oh,
allô, grosse ambiance ce matin au Café Nova. Beaucoup de monde s'est déplacé pour IFE. Est-ce que vous êtes là?
Ouais.
En effet, ils sont là dans ce « il y a du monde ». et dont évidemment Rudy.
Bonjour Edouard.
Bonjour Rudy.
Ce matin, direction Porto Rico, cette île des Caraïbes, embarquons tous ensemble pour un voyage...
Je traduis pendant que vous parlez pour le groupe IFE. Direction...
Pour un voyage hautement spirituel aux côtés de IFE. Nous allons essayer de parler, de rentrer en connexion grâce à la musique avec les Orishas, ces divinités originaires d'Afrique que l'on célèbre dans la tradition Yoruba, cette religion dont les racines sont ancrées au Nigeria. Alors ça tombe bien puisque Otura Moon, ici présent, leader du collectif IFE, au-delà de ses talents de producteur, chanteur, percussionniste, est un babalawo, autrement dit un prêtre de la religion Yoruba, et qu'il est tout simplement apte à invoquer par la musique ses esprits les plus bienveillants. Alors ça peut paraître un peu mystique raconté de cette manière, mais c'est pourtant plus simple que cela en a l'air. Musique et élévation spirituelle ne font qu'un pour IFE, et c'est ce que nous propose ce formidable premier album intitulé Eji Obe, à travers un mélange de genres savants et futuristes qui associe rumba cubaine, dancehall jamaïcain, R&B américain et évidemment ses chants sacrés, un énorme coup de cœur, la définition même du grand mix 2.0. Alors ils sont là ce matin, on a Otura Moon, Yarimir Kaban, Beto Torrens, Raphaël Maya, Anthony Sierra, ils sont dans une version...
Remarquablement bien dit tous les noms propres, je sens vraiment...
Merci Edouard, je me suis appliqué.
Ouais, super.
Ils sont dans une version complètement dépouillée, acoustique, quasiment uniquement vocale. Ils vont nous interpréter tout de suite l'ouverture de l'album qui s'appelle Preludio, entre parenthèses, Eji Obe, qui est une prière pour l'un de ces orishas dont je viens de parler. Preludio, Ife, bienvenue, c'est à vous.
C'est à vous.
Seguro. Yo soy Otura Moon. This is the group IFE.
IFE, ici, en direct du studio Nova du Grand Café. Merci à tous. C'est fini. On se retrouve avec grand plaisir lundi. Et voici que s'avance les 30 Glorieuses. Salut les amis.
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.